Les Cascodeurs Podcast, épisode 272. Interview sur Log4Shell avec Ziss. Enregistré le 11 février 2022.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode interview des Cascodeurs. Nous sommes le vendredi 11 février 2022 et aujourd'hui j'ai un invité exceptionnel que vous connaissez un petit peu. Il s'agit d'Emmanuel Bernard. Bonjour monsieur Bernard.
Oui, bonjour.
Vous ne le reconnaîtrez pas, on fera un effet pour cacher ta voix. Alors bon, Emmanuel,
on se co-invite en fait. Hein.
On a décidé de s'inviter.
On se trouvait compétent pour une fois sur ce sujet. Compétent, je ne sais pas, mais passé par l'expérience.
C'est ça, en tout cas, on a été impacté. Si compétent, je ne sais pas, mais au moins impacté. Aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder avec vous, c'était Log4Shell, cette issue de sécurité qui s'est produite qui a été publié en décembre, qui a impacté et fait trembler la terre entière, tout du moins la terre javaïste, on va dire. Et donc voilà, on voulait revenir un peu dessus, sur ce que ça voulait dire pour nous. Donc effectivement, Emmanuel, toi en tant qu'éditeur, moi c'est aussi mon cas, mais donc on a pu être impacté parce qu'on a beaucoup de développement relié avec Java. Donc derrière, potentiellement du log4j. Donc d'où l'interview d'aujourd'hui. Tu veux peut-être commencer rapidement juste... Emmanuel, dire pourquoi toi t'as été impacté justement en tant que Red Hatter.
Ah bon, il y a le truc classique, donc Red Hat a beaucoup de logiciels qui sont écrits en Java, et puis quand c'est écrit en Java, il y a quand même une bonne partie qui utilise encore Log4j. On va dire Log4j, on va faire la française cet épisode. 1 et 2, on parlera peut-être un peu du 1 aussi parce qu'il y a un peu des suites. Donc là-dessus, il y a des priorités. Il y a patcher, expliquer aux clients, proposer, pousser les fixes. Donc ça c'est un. Et le truc sur moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est qu'on a de plus en plus de cloud services, donc des services managés pour nos clients. Et donc il y a des morceaux qui sont en Java. Et du coup, il y a une urgence supplémentaire même parce que c'est nous qu'on tourne le code pour d'autres. Et que du coup, étant des services cloud, on a tendance à être plus exposé sur Internet que ce que d'autres pourraient à l'intérieur de leur système. Donc, c'est peut-être aussi pour ça l'urgence. Et puis, il y a des gens avec des procédures un peu plus carrées. Donc, moi, j'ai passé une nuit intéressante, je ne sais plus, le 11 décembre ou un truc comme ça. Voilà.
Donc, et toi ? Pareil. Alors après, je vais dire que j'ai été très chanceux chez CloudBees. Donc pareil, beaucoup de développement en Java, beaucoup d'applications. Nous, c'est Jenkins comme base pour certains des produits. Et puis, on a d'autres produits aujourd'hui qui sont aussi écrits en Java. Au final, on s'en sort assez bien parce qu'on a très peu d'utilisation de Log4j en direct. Alors dans Jenkins, il y en a très très peu, mais il a fallu quand même travailler avec la communauté, travailler parce qu'il y a des plugins, donc il y a toutes ces choses-là qui des fois peuvent quand même ramener Log4j, même si on le voudrait pas. Il est quand même là. Sur nos propres produits, on avait un petit peu de Log4j, mais très très peu. Et surtout, c'est sur les produits tierces. Par exemple, de l'Elasticsearch, je vais citer, mais c'est pas les seuls. Hein. Donc, comme toute la communauté Java a été impactée, le problème c'est pas de vérifier que nous, mais vérifier aussi que les autres qu'on utilise et qu'on préconise dans nos solutions soient couverts et soient fixés, etc. Donc, pareil, quelques semaines de travail pour assister. Et moi, de mon côté, effectivement, pour travailler avec la communauté, essayer de détecter la présence du Log4j, etc., etc.
Voilà. D'ailleurs, un autre truc, bon, après, on va peut-être parler de ce que c'est Log4Shell, oui, mais il y a beaucoup de faux positifs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, parce que Maven étant construit comme ça, qui a une dépendance au sens statique avec Log4j, mais le cœur, mais sans forcément d'utilisation explicite.
C'est ça.
Mais malgré tout, les scanners aujourd'hui de sécurité sont un peu simples et brutaux. Mmh, et du coup, ça sonne et du coup, les clients vous appellent. Ça. Oui, vous avez un truc. Non, on n'en a pas. Voilà le blog. Voilà, bref, donc même si on n'était pas affecté, bon, déjà, il fallait vérifier. Mais ensuite, il y avait de la com à faire, en fait.
C'est ça.
Autour de ça, voilà.
Beaucoup de com, nous on l'a vu côté support de notre côté obligatoirement et encore plus bah, vu que nous on a des produits donc de CI et de CD, comme tu le dis, Log4j est pas tout le temps utilisé dans les produits eux-mêmes, mais on va le retrouver sur les file systems. Donc effectivement, exactement, des clients qui venaient retrouver ah mais j'ai Log4j dans mon repo dans un folder qui s'appelle .m2 machin. Ça on l'a eu plein de fois et effectivement bah oui, mais c'est pas nous, c'est voilà, c'est votre utilisation, c'est à vous de vous protéger. Voilà, donc effectivement beaucoup d'évangélisation, d'explications sur le quoi, le comment, sur comment les trouver, les scanners comme tu le dis sont pas bête et méchant, mais effectivement, ils sont limités. Ils peuvent pas être magiques non plus pour trouver le cas d'usage, savoir si on est impacté. Et à la fin, au final, il y a aussi d'autres cas qui couvrent pas. On pourra en reparler après, mais dès que la librairie, elle est shadée, modifiée, etc., des fois, ça peut quand même être là et on le sait pas. Voilà. Bon, on va rentrer dans le détail. Donc, on va parler de Log4Shell aujourd'hui, on va clarifier bah, c'est quoi Log4Shell. Alors déjà, on va reprendre un petit peu la timeline. La timeline, en gros, c'est on s'est réveillé le 10 décembre. Alors, c'était plutôt côte aux US, donc je me rappelle plutôt, c'était le jeudi, ouais. Ça devait être le jeudi 10 décembre.
9 ou 10, hein. C'est peut-être même 9.
C'est peut-être même le 9. Moi, je pense que les premiers trucs que j'ai vu passer étaient le 9, c'était le jeudi en fin de journée, où ça commençait un peu à tweeter, ça commençait un peu à parler d'un incident de sécu, etc. À l'époque, d'ailleurs, c'était, il parlait d'un zéro day parce qu'effectivement, Log4j n'avait pas encore publié de fixe, mais on parlait d'une vulnérabilité importante sur Log4j le jeudi.
Attends, je vais faire une petite pause. Alors, zéro day, en théorie. C'est voilà. Un attaquant qui utilise cette attaque.
C'est ça.
Et que ça a été découvert par quelqu'un, en général une société spécialisée dans l'attaque ou dans la défense, en l'occurrence, et qu'on détecte ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un zero day, c'est-à-dire qu'elle est exploitée dès le jour où on est au courant, voire même en l'occurrence avant.
Voilà. C'est ça.
Après, c'est vrai que dans le journalisme technique, zero day, c'est tout ce qui, en gros, ouais, en fait, c'est tout. Tout ce qui est vulnérabilité limite. Enfin, c'est pas hyper clair. Mais le zéro day a en théorie un sens assez spécifique.
En là, théorie, c'est qu'il n'y a pas de fixe.
Que c'est exploité. Alors, qu'il n'y a pas de fixe, ok, mais que c'est exploité aussi.
C'est exploité, ouais.
Donc, si on découvre et qu'on l'annonce tout de suite en tant que chercheur, tiens, j'ai trouvé un truc, ça va être horrible. C'est techniquement pas un zéro day, mais cela dit, ça va se faire exploiter dans les rapidement. Heures qui viennent, peut-être bien avant le patch. Donc, il y a des conséquences dans les deux, mais là, en l'occurrence, je crois que c'était effectivement un zéro day.
Alors, ça l'a été. Donc, on va parler de la première CVE. On ne donnera pas les numéros, ils sont dans l'article, hein, mais la toute première donc, est arrivée.
L'avantage pour nous de le dire en février. C'est que, en fait, bon, on le savait, hein, mais il y a eu donc le 10 décembre, mais on le savait assez vite que ça allait être que le premier d'une longue série.
Voilà. Ouais. D'amélioration à ce niveau-là. Donc la première arrive le 10 décembre avec un premier fixe côté de Log4j. Donc explique-nous un peu c'est quoi cette déjà on va expliquer donc le contenu de cet exploit de base. Ça parle de JNDI. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'exploit et peut-être revenir justement sur JNDI lui-même, ce que c'est, parce que je pense que tout le monde ne se rappelle pas de ce que c'est que JNDI.
Ouais. JNDI, comme on dit en français.
Ou JNDI en français.
Tiens, d'ailleurs, juste pour info, donc ça a été découvert par quelqu'un chez Alibaba, je crois, qui a annoncé ça à la Fondation Apache. Alors, la Fondation Apache, c'est bizarre, mais ils n'ont pas de protocole de cercle de confiance. Donc, c'est un moment où on corrige, on patch, et puis on annonce à tout le monde qu'il y a un problème, et puis après, il faut courir pour corriger.
C'est exact. Il
y a d'autres modèles où on a des cercles de confiance, c'est-à-dire qu'il y a Google qui découvre, il en parle à ses potes de Apple, enfin aux gens qui connaissent dans la sécurité, voilà, chez Apple, peut-être chez Red Hat, peut-être voilà. Donc c'est des cercles de confiance de personnes plus que de sociétés en fait, en vrai. Et puis ça s'écarte jusqu'à ce que ça finisse par liquer, et puis à ce moment-là on annonce, ce qui fait que beaucoup des services majeurs sont déjà protégés en fait. Voilà, donc Apache a une approche plus ouverte, mais du coup c'est faux. faut courir plus
vite. On va dire plus simple, effectivement, dans le monde open source. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais ça a été remonté à la Fondation Apache fin novembre, en fait, par le chercheur d'Alibaba. Ça a été remonté le 24 novembre. Ensuite, la CVI, elle a été enregistrée le 26. Et donc, il a fallu environ une petite quinzaine de jours pour que ça soit communiqué et rendu public à ce moment-là.
Ouais, et donc effectivement, ça a été annoncé comme ça a été voulu être annoncé.
Voilà, ça a été annoncé par la communauté vers le 10 décembre, 9-10 décembre. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est effectivement, moi j'ai remis le lien d'un repo, mais a priori, il y a eu des traces trouvées de l'explication de l'exploit dans des repos qui datent du mois de mars ou avril de l'année dernière. Donc a priori, si l'incident a été remonté en novembre de l'année dernière à la Fondation Apache, dans des milieux concernés, il était connu depuis le mois de mars ou avril de l'année dernière.
Ouais. En fait, quand on regarde, on va expliquer ce que c'est Log4Shell, mais quand on regarde rétroactivement les gens qui ont des traces un peu longues, que ça soit des Edge Network ou des CDN, des gens comme Cloudflare, etc. Quand ils ont regardé rétroactivement des traces qui pourraient montrer des tentatives d'exploitation, il y en a quand même très peu. Il y en a pas. Et puis à un moment, on commence à en voir, en gros, 5 décembre, ce genre de choses. Enfin, quelques jours avant l'annonce officielle, visiblement, il y a des choses qui commencent à se passer. Et je crois que pour la petite histoire, il y a des gens, donc avant l'annonce officielle, qui l'utilisaient dans des serveurs Minecraft pour optimiser leur jeu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est rigolo comment une exploit aussi large est utilisé pour des
gamers.
Voilà, il n'y a pas que. Il y a des objectifs, chacun a ses objectifs, on va dire.
C'est ça.
Alors, Log4Shell, pourquoi ça s'appelle Log4Shell? Donc, déjà, c'est parce que c'est sur la librairie qui s'appelle Log4j, deux en l'occurrence, et un aussi, mais initialement deux. Et Shell, parce qu'on a eu Shell Shock et d'autres choses comme ça, donc je pense que ça s'appelle comme ça. Et puis surtout, elle a une remote code execution. Donc, on peut exécuter du code arbitraire à distance, sans besoin d'interaction d'utilisateur, en l'occurrence. Donc, celle-là, c'est celle que les attaquants aiment bien parce que, y a rien à demander à l'utilisateur, pas de phishing, choses comme ça. On envoie, on exploite. Il n'y a pas besoin d'avoir pré-compromis localement la machine. Donc, ça, c'est super pratique pour eux. Donc c'est considéré comme super dangereux. Donc il y a des scores, vous savez les CVE, les Common Vulnerability Exploit peut-être, je sais plus le nom.
Oui, c'est ça. Oui.
Et ben ça il y a un score, enfin il y a plusieurs types de scores, mais il y en a un qui s'appelle le CVSS. Et le CVSS, ça va de 1 peut-être ou 0, 1 en tout cas jusqu'à 10 théoriques. Et les plus grosses que moi j'ai vues en depuis le temps que je m'intéresse un peu à la sécurité, donc un bon 10 ans, c'était peut-être du 9-8. On se demandait, mais quand est-ce qu'il y a 10? Est-ce que c'est genre, il y a une attaque nucléaire, tu peux accéder à distance à une bombe nucléaire qui peut faire sauter? Enfin bref, on se demandait. Bon, voilà, ça c'est fait, maintenant on sait.
On sait.
Donc Log4j, c'est la première à ma connaissance, la première que moi je vois qui est du 10 sur 10.
Ouais.
C'est probablement dû à la facilité d'utilisation, à la flexibilité de l'exploitation et puis à sa
couverture,
capacité à être exploité sur un grand nombre d'outils puisque Log4j et Java sont utilisés massivement.
C'est ça.
Alors, donc ça, c'est le nom. Et donc, l'exploitation, elle est intéressante. Elle est liée, comme beaucoup d'exploitations, à l'interpolation. C'est-à-dire que quand on a une chaîne de caractères, mais qu'on veut lui faire des choses intéressantes, par exemple, votre template JSP, votre expression language, tout ce qui est interprétation, au final. On lit des choses et puis on peut exécuter du code où il y a des choses qui se passent un peu plus intelligentes en fonction du contexte qu'il y a. Donc ça, en général, c'est très difficile à prévenir comme attaque, parce qu'on a tendance, déjà, c'est déjà assez difficile à faire marcher. Donc, on a tendance à s'arrêter une fois qu'on a fait marcher l'interpréteur, et puis, on n'a pas d'approche adverse de type, qu'est-ce qui se passe si je suis un méchant qui envoie des choses, qui sont pas prévus par le mmh. système. Voilà, donc les buffers overflow, etc., il y en a pas mal qui sont exploités à cause d'interpréteurs qui sont un petit peu trop naïfs. Et donc là, Log4j 2, eh ben, il a plein de fonctionnalités, et donc il y en a une notamment qui permet, dans les systèmes de log, d'avoir de pouvoir interpréter certaines choses. Donc la chaîne de caractères, elle va pas être loguée telle quelle, on va pouvoir dire, bah, dedans, quand tu vois ce truc-là, bah, t'exécutes quelque chose, tu peux aller voir une propriété Java, on peut voir le contexte, le nom du thread, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire. Et il y en a une qui, alors je sais pas qui, c'était pas initialement dans le logiciel, mais à un moment quelqu'un a dit, ah ouais, ça serait super cool si on pouvait faire en gros récupérer des valeurs mais qui sont sur un autre serveur, et du coup on va faire ça. Alors le serveur, on va dire que c'est du LDAP, et du coup on veut appeler le protocole LDAP pour récupérer par exemple la valeur, une chaîne de caractères, un nombre, peu importe, et puis je l'injecte dans ma propriété que je vais, enfin, dans ma chaîne de caractères que je vais loguer. Super déjà, why, mais pourquoi, mais bon, admettons. Donc, quelqu'un l'a fait, puis les développeurs, c'est toujours la balance, pourquoi ma pierre, elle est acceptée ou pas, c'est ça, c'est un moment où on se dit, bon, ça a l'air de lui plaire, tant mieux, mm-hmm. et en fait, on s'aperçoit un peu plus tard que ça peut créer des gros problèmes, comme ici.
Ça, sachant qu'on parle, à l'époque, c'était les versions bêta de Log4j 2, il faut bien savoir que Log4j, d'ailleurs, avait été suspendu, abandonné pendant un bon paquet d'années après le Log4j 1 qui était stable et qui, bon voilà, et la communauté a réussi à se recréer, à se dire, allez, on se remotive, on fait une version 2, notamment par rapport à la compétition qu'il y avait sur des logbacks et autres implémentations qui devenaient de plus en plus populaires, et ils avaient envie de remettre un peu un coup de neuf. Et donc effectivement, cette fonctionnalité que tu cites qui permet d'interroger un annuaire distant pour injecter une valeur dynamiquement, bon, ils ont effectivement pas vu le mal du tout. Ils se sont juste dit, oh, bah, tiens, ça fera une feature qui est un peu cool, et ils étaient en version bêta 3. Voilà. Donc, on est vraiment, faut cadrer ça. Effectivement, on est dans les cycles vraiment bêta. Log4j 2, c'était rien. Enfin, c'était d'ailleurs, ça sera peut-être, on savait pas si ça allait refonctionner, hein, parce que clairement, il était en train de descendre, de diminuer. Log4j 2, c'est surtout une migration depuis Log4j 1 qui est pas, straightforward, comme on dit en français, qui est pas,
En tout cas, il n'est pas compatible. C'est pas si simple que ça.
C'est pas un remplacement. Donc clairement, ils n'avaient pas de visibilité sur le fait que peut-être que Log4j 2 s'imposerait ou pas. Voilà. Ouais. Donc il faut remettre aussi ça, voilà, dans le truc.
Juste pour info, c'est pas un remplacement en termes d'API. Ça a changé un peu. Après, il y a une façade Log4j 1 vers Log4j 2. Mais en fait, le point le plus compliqué en termes de migration, c'est plutôt le fichier de config qui lui était vraiment différent de mémoire. Donc c'est là où. Ou ça, pour des gens qui utilisent des fonctions de log avancées où ça matchait pas.
Tout à fait.
Bref, donc on revient à notre extrapolation. Et donc il y a JNDI. Où est-ce qu'il vient ? Alors JNDI, c'est Java Name Directory Interface, qui en gros est un moyen d'aller appeler des directories. Donc LDAP en est un, etc. Et donc c'est un système de lookup, comme on dit en bon français, pour aller récupérer les choses. Et c'est pas mal utilisé même au sein d'un serveur d'application, parce que le JNDI est le moyen d'aller de récupérer des composants. Avant qu'on fasse de l'injection de dépendance, en fait, le moyen de récupérer des composants de manière non hardcodée, en fait, c'était d'utiliser des références JNDI et puis d'aller les récupérer. Donc, on avait souvent JNDI de point local, et puis on allait récupérer la transaction, la base de données. Voilà, ça, c'est les deux grands classiques qu'on voit en termes de dans les vieilles applications avant EJB3. En gros, on voyait beaucoup ces références-là. Donc, JNDI, c'est là. C'est même pas que en Enterprise Edition, c'est dans la plateforme Java.
C'est ça. C'est bien quelque chose qui est cœur Java.
Cœur Java, ouais. Et donc, on peut faire des lookup JNDI. Et puis, il n'y a pas que local. Il y a d'autres protocoles. Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé, mais il y a au moins LDAP en plus. C'est celui qui nous intéresse.
Ça, c'est sûr.
Et donc, c'est pour ça que vous voyez des ouvrez l'accolade JNDI 2.LDAP, et puis après des choses derrière, ça vient de ça. Et donc, il y a un truc qu'on peut faire, c'est... donc on a dit on pouvait récupérer de LDAP des valeurs Java, mais qu'est-ce que ça veut dire récupérer des valeurs ? Eh bien, en fait, ça récupérait une valeur sérialisée Java, et puis ça la prenait. Et donc, ce qui est possible, c'est de pas d'envoyer une chaîne de caractères ou un nombre, mais d'envoyer un bout de code. Et ce bout de code, il arrive, Il est désérialisé par la JVM. Et donc, quand qui dit désérialisation dit en gros exécution de votre code. Et là, ça veut dire que si je suis en contrôle du serveur LDAP et que si cette propriété à distance, en fait, je mets en gros une classe qui est capable de faire des choses dont j'ai envie, eh ben, je peux faire une exécution à distance du code qui vient de faire l'appel JNDI, l'appel LDAP et qui ramène ce code, le désérialise et pouf, quelque chose s'exécute.
D'accord.
Donc, on peut exécuter vraiment ce qu'on veut. Je crois que dans le GitHub que tu as annoncé, le gars, bah, il ouvrait Calc. Donc, ça, c'est l'exemple classique sous Windows. Mais voilà, il y a plein d'autres qui ont fait des choses un petit peu intéressantes. Donc, on peut faire un ping, un appel DNS vers quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est les choses classiques.
D'accord. Et est-ce qu'on peut sortir des informations ? Parce que là, au final, tu nous dis, donc j'ai dans mon code quelque part, j'écris des logs. Dans ces logs, j'ai un moyen d'écrire. Enfin, je peux utiliser cette syntaxe JNDI pour récupérer une donnée distante, mais qui au final peut s'avérer être du code distant, du code donc qui va faire quelque chose sur ma machine. Mais au final, est-ce qu'on parle d'une exploit qui va permettre, genre sur mon serveur qui a été attaqué, bon bah de faire un RMRF sur le file system ou pire, et ça me plante, ça me fait des choses. Ou est-ce que je peux aussi, bah genre j'ai mes secrets et on va me les envoyer ailleurs. Est-ce que on peut l'exploiter comme ça?
Alors déjà donc un vecteur d'attaque dont j'ai parlé, c'est quelqu'un qui prend le contrôle du serveur LDAP et du coup peut faire des choses. D'accord. Mais c'est pas le vecteur d'utilisation le plus simple, parce qu'il faudrait que quelqu'un déjà utilise cette fonctionnalité que personne n'utilise, en vrai. et là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que, qu'il faut réfléchir à d'où elles viennent ces chaînes de caractères qu'on veut loguer. Mm-hmm. Bah, des fois, elles viennent de la librairie qui dit « Hello, je viens de démarrer ». Des fois, elle dit « Hello, je viens de démarrer et voilà mes paramètres de configuration ». Donc, la configuration, elle vient d'un fichier config, par exemple. Ou alors, hello, l'utilisateur avec l'IP 1234 vient d'arriver et puis il a dit que son nom c'était Toto et je le log parce que je veux pouvoir avoir des logs là-dessus, c'est peut-être mes logs d'audit, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on va loguer des informations qui viennent de l'extérieur et qui sont liées à chaque, disons, exécution ou requête, on va dire.
Ouais.
Par exemple, ce que fait un serveur web statique, c'est qu'il va loguer les demandes, enfin toutes les requêtes en fait. Et dedans, ben il y a les headers HTTP, enfin il y a plein de choses. Et donc imaginez que votre application Java elle log un des trucs qui vient de là et qui vient d'une, enfin c'est une info que l'utilisateur qui appelle votre service, que ce soit HTTP ou d'autres protocoles, peut influencer puisqu'il amène l'info, il amène son nom par exemple Toto. Et donc si au lieu d'écrire Toto, j'écris ouvrez la collade jndi.ldap / mon serveur LDAP à moi que je t'envoie la payload que je veux bien / attaque feed, attaque Cerber, tu vois. Bref, peu importe. et ben à ce moment-là, c'est assez simple pour moi d'essayer de deviner que cette information va être loguée par le système et du coup de repointer vers un serveur LDAP que moi je contrôle et du coup d'injecter la payload que je veux. Et donc, une fois que j'ai ça, je peux exécuter n'importe quel morceau de Java. Alors après, il y a peut-être ton application qui est protégée par un security manager qui va limiter les choses, mais on va oublier ça parce que c'est pas le cas de la plupart des applications. Et en plus, ça va être déprécié bientôt. Donc, bref. Donc, une fois que t'as ça, tu peux faire un système exec ou un truc comme ça et donc faire le rm-rf dont tu parlais. Je lis les fichiers et je les renvoie à une autre. Enfin, en gros, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau système. Donc, en gros, on a gagné. Enfin, le process Java a un niveau d'élévation qui est pas forcément en route, mais qui a un niveau d'élévation et je peux faire tout ce que le process Java peut faire. Après, si je connais vraiment bien l'application, eh ben, je vais pouvoir exécuter du code qui connaît l'application et qui va aller chercher les secrets dont tu parlais. Soit, de toute façon, ils étaient sur un fichier de config, config.yaml, et puis je vais aller le lire. Soit parce qu'ils sont dans la mémoire, et puis je peux y accéder d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment ouvert. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. C'est pour ça qu'elle est, elle est si dangereuse parce que on exécute ce qu'on veut, et puis elle est si dangereuse parce que n'importe quel truc qui est logué par l'application va se retrouver potentiellement comme vecteur d'attaque. Donc ça, c'est, c'est la catastrophe, en gros. Et initialement, on a beaucoup lu, il suffit de rajouter dans les headers, HTTP quelque chose et paf, c'est exploité. En fait, c'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que il se trouve peut-être que votre serveur Java, il log pas les headers HTTP. Mais par contre, ce qui est plus intéressant et plus important, c'est que c'est pas le seul vecteur. Peut-être que, alors Kafka, il se trouve qu'il utilise log4j1. Voilà. Mm-hmm. Et peut-être que Kafka, quand il reçoit un message, il va aller loguer la clé du message et le stocker quelque part. Et si la clé, je suis en contrôle parce que j'envoie l'information dans Kafka, je peux faire quelque chose. Ou peut-être que le nom Toto, il vient du serveur web, il passe par une application Go, il est envoyé en JSON à l'application Java, qu'il reçoit en tant que REST endpoint machin, mais qui est privé à l'intérieur. Mais Toto, qui est en fait JNDI, LDAP machin, est exécuté genre 3, 4, 5, 5 fois derrière le point d'entrée, en fait. Et ça, peu de gens, en fait, l'ont vraiment compris, je trouve. Donc c'est un point important, c'est que c'est pas parce que votre application Java elle est pas en front que vous avez pas un problème.
C'est ça, c'est
que c'est super compliqué de suivre la chaîne de risque.
La chaîne de risque et l'alimentation des données, puisque c'est ce que tu dis. Au final, même si mon appli est pas directement exposée à des utilisateurs potentiellement malveillants, le fait que je digère, enfin j'utilise des données qui sont libres, enfin qui sont libres, qui viennent potentiellement de vecteurs dangereux, même si l'application est pas connectée directement aux utilisateurs, ça peut être exploité. C'est là où c'est différent des attaques XSS ou des choses où on demande effectivement à un humain de faire une action et on essaye de piquer sa place et essayer d'interagir à sa place. Là, on est vraiment dans un truc où c'est la donnée, la provenance de la donnée, si on la contrôle pas. Ce qui donc est le cas quand même sur beaucoup de systèmes, puisque généralement les données viennent de quelque part, et ce quelque part, souvent c'est l'utilisateur. Donc dès qu'on manipule des données utilisateurs et dès qu'il y a la possibilité de les loguer, on est en risque que quelque chose se fasse, si la machine bien sûr est connectée à Internet, enfin accès à l'extérieur, mais dès ce moment-là, il y a un risque. On ne sait pas le niveau, mais il y a un risque. Ok.
Ouais. Et donc, autre truc, c'est que le truc classique, quand on dit « j'ai une entrée qui vient dans mon système », c'est que je le sanitise, c'est-à-dire que je le nettoie et je vérifie qu'il n'y a pas d'exploitation. Donc, le truc classique, c'est l'injection SQL. Donc, si je reçois un truc qui va être une requête SQL, ben, je vais nettoyer, je vais vérifier. Si je reçois un truc qui est une URL ou quelque chose qui va être réaffiché en HTML, je fais du nettoyage parce que je veux pas que ça exécute du JavaScript chez la personne qui, du coup, va voir ma page. Mais là, c'est plus subtil, c'est que c'est pas l'usage principal de la donnée. C'est-à-dire que je peux très bien rendre ma donnée propre. Là, le nom Toto, je vais le rendre propre. Mais moi, pour moi, ouvrez la collade jndi2.ldap quelque chose, c'est pas un problème dangereux d'affichage, en fait. Donc, je vais pas le gérer. Sauf que je l'ai logué. Donc, en fait, j'ai envoyé la donnée à un autre système. Puis, j'ai pas vraiment vu l'impact sécuritaire de cette chose-là. Et comme le log, il sait faire un peu, enfin, il reçoit beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment de A à Z. Et, c'est très difficile d'aller, de se protéger a priori de ce genre d'erreur. À part avoir un système de log où on peut désactiver toute interpolation si on l'utilise pas, ou voilà, ce genre de choses. Donc, moi, je pense qu'encore aujourd'hui, tout le monde n'a pas complètement compris ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le 10 décembre, quand les gens commençaient à paniquer, on n'était pas du tout à ce niveau de maturité, de compréhension de l'attaque, en fait. On avait compris que c'était un truc, tout ce qui était logué, en gros, était vecteur d'attaque. On avait compris que, fallait aller chercher dans le code un peu à droite, à gauche, et que c'était pas forcément simple. Après, peu de gens avaient compris que ça pouvait se propager à 3, 4, 5 niveaux derrière. Voilà. Et ça, ça a maturé autour du week-end, la semaine d'après, etc., etc. Donc, c'est assez fascinant d'être aux premières heures de cette réaction. D'ailleurs, l'industrie a été vraiment top. On a vu beaucoup de gens se mobiliser. Il y a les Java champions, voilà, qui avaient bossé, les gens de Java, de chez Microsoft notamment, qui a fait des labs, des gens qui ont fait des blogs pour expliquer, pour aller vraiment collectivement comprendre ensemble les problèmes et d'aller trouver des solutions rapidement. Donc là, il y a eu pas mal d'efforts. Et sans parler du travail de la Fondation Apache, je sais plus les deux ou trois là qui sont bénévoles là-dessus et qui ont patché, corrigé et une version et deux versions et trois versions, on en parlait après.
Alors faut bien voir qu'effectivement on voit ça donc côté utilisateur de Log4j, il y a eu énormément donc de personnes qui ont bossé très dur pour comme tu dis analyser les impacts, essayer de comprendre s'ils étaient impactés, essayer donc de fixer les systèmes ou les protéger. Côté fondation, bien sûr, donc il y a toute l'équipe Log4j qui a bossé très très dur sur les fixes même de la librairie et sur les fixes qui vont suivre. On va en parler après parce que il faut bien imaginer que quand il y a une faille aussi grosse qui est annoncée, une 10 sur 10, ça vous met le projet sous le feu de tous les projecteurs. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tous les experts sécurité se disent oh, il y en a peut-être bien d'autres qui traînent. Et donc obligatoirement derrière, ça a scruté tout ce qui était possible de faire avec la librairie. Donc on en reparlera sur les versions les fixes qui ont suivi, mais voilà, il s'en est suivi que ça a été plusieurs semaines de boulot pour les fixer. Pareil dans les autres librairies un peu similaires, les logbacks, tous ceux qui potentiellement pouvaient faire du JNDI quelque part, se sont dit « Ouh, mais est-ce que moi aussi je peux être dans un cas pareil ?» Donc il y a plein de choses qui ont bouillonné et donc il y a eu plein de fixes. Et côté de fondation, ce qu'il faut voir aussi, c'est le boulot de l'équipe de sécurité. C'est une petite équipe aussi donc qui reçoit, donc c'est la fameuse équipe qui a reçu fin novembre l'annonce du security engineer d'Alibaba disant « Il y a un problème machin, ils ont passé la balle. »
Sa société dans la merde, on en parlera pas.
On en reparlera après. Mais bon, ils reçoivent ça de d'Alibaba. Donc fin novembre, ils enregistrent les CVE, ils bossent avec l'équipe Log4j pour que ça soit publié, etc. Faut voir que d'habitude l'équipe sécurité d'Apache, c'est une volumétrie, on reçoit, je sais pas, peut-être 10 threads par mois et encore, enfin 5 threads par mois. Sur le mois de décembre, on parle de plus de 200 threads et de 700 emails sur le channel sécurité de la Fondation Apache, parce que obligatoirement derrière, tous les projets impactés qui utilisent Log4j, étaient dans le même problème de devoir se fixer eux-mêmes, etc., etc. Plus, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, d'essayer d'expliquer aux gens, t'es impacté, pas impacté. Donc, ce que je voulais qu'on finisse un peu là sur cette vulnérabilité, c'est finalement, qu'est-ce qui est impacté? Parce que, donc, on parle de Log4j 2. Donc, sur cette première vulnérabilité, donc, ce sont toutes les versions depuis la bêta 9 de Log4j 2, je crois, c'est ça? Jusqu'à la version 2.15, de mémoire c'est ça, version 2.15 qui a fixé...
14 inclus, non c'est pas ça. Parce que la 2.15 c'est le premier qui fixe, non?
Oui c'est ça.
Jusqu'à la 2.14.1 sont vulnérables.
Vulnérables, donc la 2.15 est la première qui fixe. Et par contre il y a plusieurs artefacts dans Log4j. Donc là ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est qu'on parle de Log4j parce que donc il y a l'API, il y a le core, plus tout un tas de wrappers en fonction de ce que vous vouliez en termes de wrappers avec d'autres librairies de logging. Donc là, on parle uniquement du Log4j core. C'est-à-dire que si une application, comme ça a été donc justement énormément remontée tout au début, notamment par les scanners de vulnérabilité, les Log4j API, eux sont pas concernés. Eux, ils ont pas de logique, ils ont pas de traitement, ils font rien. C'est le core qui lui est impacté par cette security issue.
Donc c'était une incompréhension du début, ça aussi. D'ailleurs, la CVE, elle annonçait que tout était impacté API et core, et en fait, au final, attendez, on dit des conneries, en fait, c'est core. Donc ça a beaucoup évolué au fur et à mesure de la maturation, parce que on annonce des choses et puis collectivement, on réfléchit vite parce que au lieu d'avoir trois cerveaux je ne sais même pas combien de cerveaux ont participé à ce truc-là, je ne sais pas, 300 000, 30 000, c'est ça, 30 000 au moins. Voilà, donc c'était intéressant. Puis c'était marrant parce que je parlais avec un ami que je voyais le dimanche, ce week-end-là, je crois que je l'ai vu le dimanche, et je lui dis ouais, je suis tombé sur ce truc-là, j'ai bossé toute la nuit de samedi, je suis un peu la tête... Il dit, ouais, j'ai vu ça vendredi, mais bon, nous, je lui dis, ouais, tu sais, quand même, fais gaffe, parce que, en fait, c'est pas parce que, bref. Il travaille dans une boîte que je nommerai pas. Et puis, la semaine d'après, je reparlais et je lui dis, alors, il dit, bah, c'était la merde. Effectivement, bah, on réalisé un peu tout, comme tout le monde.
Et ça a pris du temps, comme tu le dis, parce que le temps que les gens réalisent, obligatoirement, en premier, il y a eu les éditeurs de logiciels qui sont les premiers à se poser la question, et donc on voit bien toutes les boîtes.
Oui, parce qu'il y a des équipes dédiées, des procédures.
Voilà, donc tout ça, bon, les communautés open source, bien sûr aussi, puisque voilà, c'est pareil, ils sont suffisamment informés en général. Mais après, les clients finaux, on va dire, ou les boîtes dans lesquelles c'est pas le cœur de métier, on a vu, enfin moi je l'ai vu côté support, etc., ça met facilement 1 à 2 semaines à ce que les gens se réveillent, lisent dans la presse, dans les grands journaux. Alors, faut dire que cette fois-ci, quand même, on a eu le privilège d'avoir une couverture presse relativement importante. Ouais,
je crois qu'il y en avait dans Le Monde.
Le Monde, le Times, enfin, je sais plus. Il y a eu des choses assez importantes. Donc, ils s'en sont quand même, ils sont vite rendus compte qu'il y avait un truc à vérifier. Ouais. Mais ça a quand même pris, quelques jours, voire quelques semaines pour que les gens se disent, mais est-ce que je suis vraiment, impacté ou pas, soit dans mes développements, soit dans les applications que j'utilise au quotidien.
Ouais. Ouais, parce qu'à un moment, je crois qu'il y avait une annonce du gouvernement américain qui disait, bah, les agences n'iront, ne fêteront pas Noël avant qu'on ait patché tout.
C'est ça.
Bon, ouais, c'est impossible, mais bon. Donc, je pense que ça, c'était genre le 12-15 décembre, ils ont dit, bon là, on a 10 jours pour tout patcher le plus vite possible.
C'est ça. Alors, sachant qu'il y avait mitigations en anglais.
Je vais te trouver ça, vas-y, continue.
C'est gentil. Donc, ce qu'il faut voir aussi, dans tout ce brouhaha, donc là, on est toujours sur vraiment le début, sur 10-13 décembre, là, vraiment le premier week-end de rush. Pareil, énormément de gens qui se disent, bon, est-ce qu'on a besoin de fixer? Parce que fixer, ça veut dire remplacer des librairies, upgrader des librairies, selon le logiciel, selon la version qu'il est, selon votre cycle de release, etc. C'est pas quelque chose qu'on fait obligatoirement en claquant des doigts, même si on est en 2022, désormais. Et donc, il y avait beaucoup aussi, à l'époque, de contournement ou de tentative de dire on va isoler, on va limiter le problème avec, effectivement, tu le citais tout à l'heure, des variables d'environnement, j'ai vu passer, je crois, des systèmes properties pour la JVM, j'ai vu passer.
Oui, Log4j avait un Log4j disable, justement, l'interpolation.
C'est ça. Mais qui était que sur certaines versions, ça avait été rajouté que après certaines versions, donc c'était pas pour tout le monde, etc. J'ai vu aussi un projet où ils utilisaient la vulnérabilité, je vais y arriver, pour fixer le bug, en fait, pour désactiver en interne de Log4j l'utilisation de GNDR. Mais donc, en gros, beaucoup de gens
L'utilisation, oui, c'est ça. Mais en fait, alors celle-là, juste pour info, parce que j'ai dû l'arrêter aussi en interne,
voilà, ouais.
C'est bien, mais un reboot, ça remet tout à zéro.
Ça a perdu, bah oui, obligatoirement, c'est ça.
Ah, ouais, pas grand-chose, en fait.
Donc, mais en tout cas, beaucoup d'émulations autour de trouver des solutions et des contournements pour éviter d'avoir à re-releaser et d'upgrader tous les softwares de la terre entière, jusqu'à ce que qu'arrive finalement au milieu de semaine prochaine. Donc là, on arrive c'est le début
juste
de la semaine d'après.
Pour en fait, montrer comment c'était développé là, parce que là, je relis une des analyses là de Lunasec que j'avais beaucoup utilisé à l'époque. En gros, quand tu changeais ton iPhone avec un JNDI quelque chose, ça affectait les serveurs Apple.
Aussi, ah oui, c'est là où effectivement on voyait toute l'étendue de la faille qui touchait les plus grands acteurs de la Silicon Valley. Voilà, c'est pas obligatoirement le truc de caché.
C'est ça, il y a le format MSG no lookups. Donc c'est-à-dire pas des lookups, donc des lookups de type GNDI quand on formatait les messages, c'est-à-dire on faisait l'interpolation.
Ouais. Mais c'était qu'après la version, je sais plus quoi. Ouais, voilà. Donc on va avancer parce que là, donc on est que la première partie. Donc derrière, on va enchaîner feu des projecteurs. On continue de chercher, voir s'il y a d'autres problèmes. Donc là, on est le 13 décembre, donc c'est le week-end d'après. Donc les équipes ont bossé comme des malades. Et donc nouvelle version 2.16. Donc cette fois,
juste pour info, parce qu'on passe on augmente le nom des versions mineures parce qu'en fait, il y a changement de fonctionnalité. En fait, je crois qu'ils avaient désactivé JNDI par défaut. À chaque fois, c'était pas une version point micro qu'on se dit, c'est facile à upgrader. C'est potentiellement, il se peut que votre logiciel, il utilise, en fait, les JNDI lookup ou il utilise les trucs qu'on va désactiver. Donc, mise à jour de la version mineure à chaque fois.
C'est ça.
Donc 2.16.
2.16, vas-y.
Celle-là, qu'est-ce... Non, vas-y.
Non, bah, alors, donc, vas-y. Donc, celle-là, sur la 2.16, on se rend compte de quoi? Donc, là, on a, ils ont isolé le problème. Donc, ils se rendent compte. Bon, JNDI, c'est mal. On le désactive par défaut. Donc, d'où le changement mineur. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait sur cette version?
Alors, dans celle-là, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que on peut désactiver. En fait, ils avaient dans le bout de code vu que quand on prend un message, on va éviter l'interpolation. Super. Et sauf que l'interpolation, elle est faite à d'autres endroits aussi dans Log4j, et notamment des choses qui viennent de la configuration. Donc, un truc classique que vous avez sûrement fait, c'est d'aller jouer un peu avec le format des logs que vous voulez. Et donc, dans le format des logs, on peut mettre plein de choses, donc le nom du thread, et aussi des références à des variables qui s'appellent les thread context lookup, enfin, les variables qui sont dans les threads, comment ça s'appelle ce truc-là? Thread local, en gros. Et du coup, on peut dire, donc, c'est contexte de point, et puis, bah, login ID, ça va aller chercher l'entrée login ID dans la map du thread local. Et donc, ça, bah, ça demande à ce que l'utilisateur utilise ce genre d'interpolation dans son format de log, ou d'avoir accès au fichier de configuration, et du coup, de pouvoir le modifier. Après, il y a eu des grands débats entre, bah, si t'as déjà accès au fichier de configuration, t'as pas déjà un peu perdu. Donc, là, c'était un peu des conversations avec l'évaluation du risque, en fait, avec les équipes sécurité, entre les équipes de développement et les équipes sécurité. Mais, en tout cas, s'il y a un usage comme ça non standard, ce qu'ils appellent les patterns de votre ligne de log. Eh ben, moi, je sais que vous utilisez, par exemple, login ID. Moi, je sais que ce framework va aller loguer login ID parce que, bon, peut-être c'est écrit dans la doc ou c'est un logiciel open source. Du coup, c'est là où c'est un peu compliqué, mais je peux éventuellement trouver un endroit dans le code qui met à jour ce login ID à partir de l'information qui vient d'une info utilisateur, et je peux aller injecter quelque chose qui va du coup être interpolé par Log4j. Et là, on repart, c'est-à-dire qu'on peut réinjecter du JNDI, enfin une entrée JNDI là-dessus. Alors, c'était quand même beaucoup plus difficile à exploiter, parce que il faut trouver le bon framework, typiquement peut-être le framework web qui est le plus près des usages, le fait qu'ils le mettent dans un thread local, et le fait que cette approche de log soit utilisée. Donc, bon, ça commençait à limiter un peu l'usage. Je me rappelle plus, je crois qu'il était à 6 ou quelque chose comme ça. Donc, on avait commencé à descendre en termes de mode panique.
J'étais en train de regarder, elle, quand même, non, elle était à 9, en fait. J'étais étonné, genre, j'avais comme toi en tête, j'étais juste en train de vérifier, je pensais qu'il avait diminué.
Elle a été montée, je crois.
Elle a été remontée derrière, parce qu'il y en a d'autres qui suivent, et donc ils se sont rendus compte que celle-là pouvait encore servir.
Je crois qu'à la base, elle était reconnue comme déni de service.
Oui.
Donc on en parlera dans celle d'après, parce que ça, c'est pas trop intéressant. Et en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ça pouvait faire plus que le déni de service, et ça pouvait refaire de l'exécution de code à distance. L'exécution de code à distance, on monte assez vite à 8,5 ou plus.
C'est ça.
Puis comme tout le monde était un peu chaud, là, ça dure par un 9 direct.
C'est ça, allez, un 9, c'est cadeau. C'est cadeau, vous l'avez mérité. Voilà. Donc 13 décembre, cette nouvelle release. Alors, ce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, parce qu'effectivement Log4j 2, donc on parle pas de Log4j 1 qui était pas du tout impacté, parce que c'est pas du tout la même code base.
On a parlé au début, parce qu'il y a eu un moment de flottement.
Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais
l'instant, ça a été non, on s'est trompé, puis ça c'est revenu après.
C'est revenu après, parce que pour l'instant, donc, de toute façon, effectivement, des codes bases complètement différentes, ils avaient tout réécrit entre les deux. Par contre, ce qu'il fallait voir, c'est que Log4j 2, il y avait deux baselines. Il y avait une version Java, compatibilité Java 7, donc ils étaient les 2.12 s'étaient arrêtés à Java 7, et à partir de Java, de la 2.13 faisait Java 8 et plus. Donc, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, la fondation Apache, de fournir des bug fixes. Donc, pour ces deux premières issues là qu'on a citées, ils ont fourni des bug fixes, des backports sur la version 2.12 compatible avec Java 7, puisque là où Java, où Log4j 1 est clairement, donc on en parlera tout à l'heure, était clairement considéré comme plus supporté, plus maintenu, ni rien, c'est mort, c'est fini, fin de non-recevoir, la version Java, la version 2.12 qui était en Java 7, là, ils ont trouvé que c'était quand même important d'offrir aux utilisateurs de faire des bug fixes. Alors, c'est des bug fixes, effectivement. Enfin, c'est des considérés comme des bug fixes, puisque c'est 2.12.1, 2.12.2, etc. Malgré que ça soit le backport de ce qui a justifié une version de fonctionnalité en version 2.15.16, etc. Mais au moins, ça offre aux utilisateurs la possibilité de se protéger, d'avoir le même niveau de protection sur les, si vous êtes encore compatible Java 7, ce qu'on n'espère pas pour vous, mais on sait que ça existe.
Alors, pour info, en tant que exploitant d'un logiciel, au moins vous êtes en contrôle de votre configuration de log. Donc, et vous savez quel usage de chemin est effectivement utilisé dans vos usages. Bon, vous êtes censé pouvoir le deviner, en tout cas.
C'est ça.
Quand on est éditeur logiciel, c'est un peu plus compliqué parce que qu'est-ce qui est le contrat, en fait, entre l'utilisateur et ce logiciel, notamment quand c'est des logiciels où on déploie du code, donc des serveurs d'application, du Jenkins, etc. Eh ben, il y a vos API, puis après, il y a les implémentations qui sont pas censées être des API, mais bon, que certains utilisent. Et puis surtout, là, la config, qui utilise le thread map, machin, qui utilise le JNDA lookup, c'est là où ça devient plus compliqué, et c'est un peu une évaluation des équipes, genre, voilà, c'est possible. Du coup, les risques sont un peu différents en fonction de l'estimation de l'usage, en fait, que font vos utilisateurs des configs de log, etc., etc.
Et d'ailleurs, ça me revient, et sur cette version 2.16, là, avec toutes les, aussi pourquoi ça avait été remonté, je crois, c'est le fait que vous avez une fonctionnalité dans Log4j pour mettre, alors généralement c'est utilisé pour du debugging, mais pour recharger à chaud la config du fichier dès qu'elle est modifiée. Donc c'était aussi lié à ça, le fait que si cette fonctionnalité-là était activée, s'il y avait le moindre moyen de, parce que au final, modifier le fichier de config, tant que l'application en général est pas redémarrée, on s'en fiche, il peut rien se passer. Mais là, en plus, à cause de cette fonctionnalité, si elle était activée, il y avait le risque que, effectivement, à chaud, le Log4j prenne la nouvelle config et donc puisse utiliser le système d'exploitation lié au thread context MDC. Ouais. Voilà. Donc, ça faisait partie de la chose.
Et donc, pour y revenir, c'était un autre chemin d'utilisation potentielle du JNDA lookup. Mais qui n'avait pas été corrigé et qui n'était pas protégé par cette variable d'environnement qui existait depuis. Ensuite, 18 décembre.
18 décembre. Donc on a passé la semaine. Donc là, on est en fin de semaine suivante. Boum, on ressort une release, donc la 2.17.
Et là, il y en a qui disent les vacances de Noël.
Ça sent mauvais. Ça sent super mauvais. Là, je t'avoue que moi, perso, je prenais mes vacances. Hein. C'était juste le week-end où j'étais les deux semaines suivantes. Je commençais à dire, oh non, ça va être compliqué, là, cette année. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que les hackers nous font ce plaisir de sortir des security issues en fin d'année, juste avant les fêtes de fin d'année. Alors, vas-y, explique-nous. Donc, 18 décembre, la 2.17, cette fois, on parle de quoi?
Alors, la 2.17, attends, on va regarder son score, là, du coup.
Alors oui, par contre, j'ai oublié.
Elle est à 5,9, donc voilà, tranquille.
C'est un peu plus tranquille.
Tranquille parce que j'avoue que je suis pas 100% super clair, mais c'est un petit peu un remake de celle qu'on a expliqué juste avant. Donc, ça utilise le notion de lookup, la context de point login ID. Login ID étant la propriété que vous voulez récupérer. Ça utilise toujours le thread context map. Mais là, l'idée, c'est pas tant d'injecter du JNDI et donc d'avoir un code d'exécution à distance, mais plutôt d'injecter une référence, en fait, de réinjecter un lookup. Enfin, un truc qui dit va aller faire un lookup. Et du coup, il y avait une récursion infinie. Donc, en fait, quand vous mettiez à loguer ça, ça allait en boucle à l'infini jusqu'à un déni de service, en gros, tout simple.
Exactement.
Tout
simple.
Efficace. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas la pire du monde. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas de compromission de votre infrastructure. Mais par contre, le système, il tombe. Donc,
il tombe.
C'est pas top. Donc après, c'était les mêmes, donc patcher ou alors les mêmes mitigations. Donc, n'utilisez pas les notions les patterns de context lookup dans vos
les MDC
MDC en l'occurrence c'était pas
sur celle-là
mais il y a eu pareil des confusions autour de est-ce que MDC c'était exploitable ou pas
ouais je me rappelle qu'il y avait tout un Alors, il faut savoir que celle-là, par contre, elle a été alors fixée rebelote, donc il fixe en 2.17 pour Java 8, en 2.12.3 pour Java 7, mais il y a aussi la 2.3 qui est en Java 6, qui elle était impactée. Donc, ils font une 2.3.1 pour aussi ceux qui sont en Java 6 en Log4j 2 pour qu'ils puissent bénéficier du fixe. Bon, donc là, on se dit, on va peut-être pouvoir partir en, en vacances pour Noël. Donc,
on passe Noël.
Et
là, paf, le 27 décembre. On dit, ah, il y en a marre. Mais il y en a quand même une 2.17.1. Et alors, celle-là, on repart dans les exploitations, enfin, l'exécution de code à distance, là, les fameuses RCE.
Ouais.
Parce que là, on s'aperçoit des fois. Alors, je sais pas si c'était dans le corps ou si c'est un jar séparé, celui-là. Ouais. Mais en tout cas, il y a des. Il y a des gens qui se sont dit que c'était une bonne idée de pouvoir aller loguer les logs dans la base de données. Donc, il y a ce qu'on appelle un, alors, il y a, dans Log4j, il y a le concept de appender qui dit, je vais aller envoyer mes logs, en système, sur le log système, ou alors dans un fichier, en rotation, etc. Et donc, il y a un moyen de l'envoyer en JDBC. Donc, on envoie, on met un driver JDBC, on lui met la configuration, et puis hop, ça va aller loguer dans une table, j'imagine, une ligne par log. Donc, déjà, la scalabilité doit être intéressante, mais bon, c'est possible. Et donc, encore, là encore, si l'attaquant peut accéder et modifier la config, ce qu'il peut faire, c'est que ce JDBC Appender, au lieu de lui donner un JDBC de point Oracle, ce que vous voulez, il va aller faire, alors, bah, c'est une URL, donc il va mettre JNDI, point LDAP, etc., qui est aussi une URL, et du coup, comme c'est la même interprétation d'URL qui est générique en Java, on repart, JNDI lookup, LDAP, tu vas aller taper la, l'accès, enfin plutôt la payload qui est malicieuse, et hop, on est reparti. Mais il faut quand même que la personne injecte la configuration JDBC négative. Donc à part si votre logiciel expose cette capacité à l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Bon, là, on commence à, c'est pour ça qu'on commence sérieusement à descendre en chiffres.
C'est ça.
En termes de
on est sur CV. Du 6, on est sur du 6, 6-6 en score. Alors pareil, publication sur les trois bases. Maintenant, Java 6, 7 et 8. Donc 2.17.1, 2.12.4, 2.3.2. Ils refont les trois pour que tout le monde soit protégé. Et ce qu'ils font aussi, c'est dans cette release-là, ils... parce que donc ils ont rajouté au fur et à mesure des properties pour enabler ou disabler. Enfin, alors c'est l'inverse. C'est que par défaut, c'est désactivé. Par défaut, c'est désactivé tout ce qui est dangereux désormais est désactivé par défaut. Mais vous pouvez le réactiver en fonction de vos besoins, parce qu'il y en a certains qui l'utilisent pour de vrai. S'ils comprennent les impacts, etc.
Notamment JNDI, je crois qu'il y a deux niveaux. Alors, il y a un niveau, mais en tout cas, c'est... OK, tu peux faire du JNDI si tu l'actives, mais c'est que en localhost.
Voilà.
Parce que bah, l'accès local... Je vous ai parlé du JNDI local, voilà, c'est un usage, pour le coup, plus répandu et plus légitime. Et c'est pour ça qu'on peut pas juste dire bah tiens je vais enlever la classe qui s'appelle JNDI context lookup là et puis ça va bien se passer. En fait en vrai on peut pas vraiment faire ça. Donc dans Quarkus c'est pareil, on a en gros c'est désactivé par défaut, mais donc on a remplacé une factory qui lui envoie un truc qui marche pas, mais par contre des extensions disent boy mais moi vraiment j'utilise JNDI donc là on le réactive, on va essayer de trouver un compromis aussi là-dessus. Et là c'est pour réduire sa surface d'exploitation potentielle.
C'est ça. Et là, ils ont donc permis de configurer trois properties différents pour justement bien spécifier de si vraiment vous voulez réactiver, pas réactiver l'ensemble des fonctionnalités JNDI, puisque on vient d'en parler depuis une heure, tous les problèmes que ça peut produire, mais que certaines fonctionnalités en fonction du besoin, que ce soit le lookup, le JMS ou le context selector. Donc, ils ont séparé aussi pour rendre plus fin la capacité à réactiver si vraiment vous en avez besoin. Pour un cas précis. Voilà. Donc ça, c'est la 2.17.1. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon pour la 2.17.1.
Je crois qu'il faut... Ah non, le JMS Appender, c'est que dans Log4j 1. Hein,
Oui, c'est que Log4j 1. Et qu'est-ce que j'allais rajouter? Et donc, tout à l'heure, tu demandais si c'était sur une extension. Non, c'est bien dans le core, c'est bien le Log4j core qui a tous les appender de base, dont le JDBC. Donc effectivement, c'est bien, il suffit d'avoir le Log4j core pour être impacté par ce risque. si programmatiquement vous permettez de configurer les appenders dynamiquement, vous pouvez avoir le problème.
Donc là, on vous a peut-être pas mal saoulé. On va faire, alors il y a Log4j 1, mais on va faire une petite pause.
Ouais.
Et on va parler d'un petit peu des analyses qu'ont fait les chercheurs sur l'impact potentiel. Et notamment, Google et Sonatype ont fait des impacts, enfin des analyses d'impact et de déploiement des versions corrigées. Je sais pas si tu veux en parler, sinon je vais.
Non, bah vas-y. Donc
en fait, Google, bah en gros, ils ont une copie de. Enfin, ils servent aussi Maven Central, en fait. Ils ont une copie, donc on peut l'utiliser. Du coup, ils ont fait une analyse avec. Je sais pas, ils ont dû faire une pub pour leur Big Data, je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, ils expliquent, bah voilà, nous, on peut remonter les dépendances et puis on est capable de vous dire qu'il y a 8% des packages Java public, donc sur Maven Central, qui utilise Log4j 2, exploitable pour ça. Donc ouais. C'est énorme, 8%, c'est énorme. Ça veut dire que quasi 1 sur 10 des packages utilisent Log4j d'une manière directe ou indirecte. Évidemment, si j'utilise un package qui lui-même utilise un package qui lui-même utilise Log4j, on est dans la même panade. Mmh. Et donc ils ont un graphe de à combien de distance en fait est Log4j, dépendance directe c'est 1 jusqu'à la plus loin, je crois c'est 9. Donc c'est un truc qui utilise un truc qui utilise un truc, 9 fois. Et du coup, donc dans Go, ils ont une approche un peu différente de la gestion des dépendances, c'est-à-dire qu'ils copient les sources et puis quand on recompile l'application, on recompile tout en entier. Donc on fait un fetch de Git de tout et puis hop, on recompile l'application. Mais dans le cas de Java, c'est un peu différent parce qu'on a des jars qui sont publiés et puis la librairie dépend de ce jar qui est publié. Et puis si j'utilise cette librairie et que je me déploie sur Maven Central, c'est pareil, je dépends de cette librairie qui, elle, dépend de Log4j exploité. Donc en fait, pour corriger proprement ces 9 niveaux, il faut que Log4j soit corrigé, le truc utilise Log4j soit corrigé, le truc utilise Log4j soit corrigé et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire la récursion 9 fois. Et du coup, ça prend du temps tout ça. Donc c'est un peu ce que disait Google, c'est bon on a vu quand même un pourcentage de correction assez vite hein, dans les premiers jours, mais on s'attend à une longue tail qui va être significative, y compris potentiellement des années en fait. Et du coup c'est Sonatype que tu disais qui expliquait qu'il y avait encore 40% de téléchargement de la version impactée sur Maven Central.
Voilà. Ils mettent aussi en ligne des statistiques qui sont rafraîchies en temps réel, enfin au jour près. Et effectivement, c'est ce qu'on voit obligatoirement sur Maven Central. Alors ça veut dire tout et rien, puisque vous savez très bien que il y a des repositories d'entreprise, que voilà, il y a plein de raisons pour le fait que les statistiques ne représentent pas la réalité à 100%. Mais voilà, on reste quand même sur. On a vu que ça diminuait rapidement, effectivement, la présence, l'augmentation du téléchargement des nouvelles versions. On l'a vu, mais dès le 10 décembre, ça a tout de suite accéléré pour monter effectivement rapidement à ce palier de 30-40% de téléchargement de versions plus ou moins protégées, donc jusqu'à la 2.17.1. Mais il reste effectivement 40%. De téléchargement des versions impactées. Après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi là où il faut tout modérer. C'est que, est-ce que le fait de télécharger veut dire qu'on l'utilise? Pas du tout. Vous pouvez très bien télécharger via votre build, que ce soit Maven Gradle ou quoi que ce soit, le jar et ne pas le mettre dans votre application. Vous pouvez aussi l'utiliser, le mettre dans votre application, mais ne pas utiliser Log4j. Alors ça, c'est encore un autre problème qui d'ailleurs a été peu discuté aujourd'hui. On peut peut-être en parler, mais Log4j, vous pouvez l'avoir dans votre package, dans votre application, mais pas nécessairement utiliser Log4j pour loguer. Donc ça peut être encore quelque chose où l'utilisation.
Quoi, par exemple, t'en as deux, t'as Log4j et
tu utilises Logback. Voilà, ouais. Parce que t'as configuré Logback et t'as désactivé Log4j. Donc normalement, les outils de build et même les interfaces, si tu prends un SLF4j, etc., vont dire. Faut pas deux implémentations, c'est pas bien, etc. Mais techniquement, rien t'empêche de l'avoir. Donc c'est aussi tout ça qui prend aussi beaucoup de temps à analyser, de savoir si on l'a, si on l'utilise, voilà. Donc aujourd'hui, on voit que 40%, ça reste énorme, mais ça veut pas dire qu'effectivement 40% des logiciels construits aujourd'hui sont impactés, clairement pas.
Mais c'est quand même 40% des trucs qui sont quand même rebuildés d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un téléchargement, ouais. Donc ça vient de quelque part.
C'est ça, ça vient de quelque part.
C'est peut-être une CI quelque part qui demande tous les semaines
c'est ça.
Les versions.
C'est ça.
Ok, bon, on a fini notre pause, on retourne. Oui. Log4j1. Alors, Log4j1, c'est plus intéressant parce que, alors déjà, il y a moins de fonctionnalités. Donc, les aspects initiaux d'interpolation dans ce qui est logué explicitement n'existaient pas en termes de fonctionnalités. Donc, là-dessus, Log4j1 était plutôt, était pas affecté. Mais, Il a commencé à y avoir un peu de débat parce que Log4j1, quand est-ce qu'ils ont arrêté de le supporter, la Fondation Apache?
Vas-y, parle, je vais te le retrouver.
14 ou un truc comme ça, en fait.
Mais oui, c'est super vieux. Super vieux.
Voilà, donc c'est un projet, il est déprécié. Il dit, bon, les gars, on l'utilisait plus, c'est plus supporté, il n'y a plus de trucs de sécurité, etc. Bon, bah, il se trouve que des trucs aussi inconnus que Apache Kafka utilisaient encore Log4j1. Parce que bah, la migration à deux, beaucoup plus de fonctionnalités, et j'en disais, ça vaut pas le coup d'aller se mettre à jour. Voilà. Du coup, Log4j 1.2, bah, il était encore pas mal utilisé. Voilà, le 5 août 2015.
2015, voilà.
C'est la fin de vie de Log4j 1.
L'annonce.
On est combien là
On est en 2022.
Le 11 février 2022, on a encore pas mal d'utilisation de Log4j 1.2.
C'est ça.
Et donc, la Fondation Apache, il y a les conversations, il y a les gens qui disent, moi, je suis prêt à faire le patch, etc. Et il y a des débats, et des plus un et des moins un, enfin, la façon Apache. Mais en gros, on a vraiment dit, là, ça fait des années que le truc, il est plus supporté. On va pas le faire. Tant plus, c'est des fonctionnalités qu'on va devoir casser, etc. C'est un peu compliqué. Désolé. Désolé, mais on va pas mettre à jour Log4j 1.2. Et donc là, il y a des logiciels qui doivent se mettre à jour rapidement, qui sont un peu dans la panade. Et là, c'est pas du tout la même réactivité, puisqu'il y a toute cette discussion déjà. Et puis ensuite, il n'y a pas de solution à part inventer soi-même le patch, initialement, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe comme problème? Donc, Log4j 1.2, il y a des trucs du genre des appenders, JMS appender, JDBC appender, etc. Et puis d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a des vulnérabilités non corrigées sur Log4j 1.2, puisque c'est pas la première fois que, ça fait depuis 2015 qu'il est plus corrigé. Et donc, tout le monde est là, là c'est vraiment la merde. Mais en gros, dans le JMS Appender, on peut injecter une propriété qui va aller appeler du JNDI. On est reparti dans la même vulnérabilité. Alors, pareil, toute demande de pouvoir plus ou moins accéder à la config. Donc, elles ne sont pas non plus des plus flexibles et utilisables, mais ça reste une vulnérabilité. Le JMS Appender, le JDBC Appender, il a sûrement aussi le même problème que dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'URL qu'on peut transformer en lookup JNDI avec du LDAP, etc. Mais il se trouve aussi qu'il a se protéger de l'SQL injection en 2015, c'était pas encore corrigé, c'était pas encore connu. Donc le JDBC Appender, il va aller injecter, vous pouvez injecter drop Bobby Table. Dessus, et donc l'utilisateur qui va aller loguer drop Bobby Table, le JDBC Appender, il va aller supprimer la table. Voilà. Donc si votre base de données elle est partagée, pas que pour les logs, vous allez perdre des choses. Donc il y a un monsieur qui s'appelle, je ne connais pas son nom de famille, mais c'est qui?
Sheki Kulku.
Ok. Qui est le. Je te laisse. Qui est le développeur initial en fait de Log4j, c'est Monsieur Log en Java en fait, qui a fait Log4j 1, qui après, je sais pas, il est pas parti en super bon terme je crois avec la Fondation Apache, mais il est reparti, il a fait, je sais plus dans quel sens, mais je crois les façades, donc il a fait SLF4j, ensuite il a fait Logback, qui est assez populaire aussi comme outil, plus simple, pareil, très moins populaire. De fonctionnalités explicitement, qui lui a bien regardé aussi les erreurs qui étaient faites sur Log4j2 et qui a été analysé son code parce que c'était pas non plus genre regardez comme ils sont trompés.
C'est ça.
Bon, en fait, il y a toujours des choses. Et donc, ce monsieur, c'est qui il a proposé un truc qui s'appelle Reload4j, qui est en gros un fork de Log4j 1.2.17 Et puis il a commencé à essayer de corriger, et après il le voulait compatible avec la 1.2.17, mais c'est toujours le même problème. En fait, en vrai, pour être propre en termes de sécurité et réduire sa couverture de risque, eh ben, faut pas être vraiment compatible, c'est-à-dire désactiver au moins par défaut certaines fonctionnalités. Donc il y a eu pas mal de fixes dessus. Ils ont fait plusieurs versions, je crois. Ils en sont à la 1.2.19 de Remote Forge. Il y en a plein. Et il y a eu, alors ça réutilise pas les mêmes, enfin le nom c'est Reload Forge puisque c'est pas la fondation Apache, même si c'est compatible, c'est-à-dire que le package lui-même doit être en Apache, etc. Je crois que la fondation Apache dit ok, pas de problème. Enfin, en gros, nous on le fait pas, mais c'est super si tu le fais. Et voilà, ils sont mis à rétro-corriger pas mal de choses. Moi, je sais que certains de chez Red Hat travaillaient là-dessus, notamment autour de l'aspect OSGI. Il y avait des trucs qui marchaient plus, qu'il fallait corriger. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas où vous utilisez encore Log4j 1 et migrer c'est compliqué, ben, il y a ce fork qui est en gros celui que je connais au niveau communautaire, en tout cas qui commence à être maintenu et suivi. Et ils ont rétroactivé pas mal de choses, des problèmes au niveau du SMTP Appender, donc le JMS Appender. Et ils se sont posé des questions, c'était intéressant parce qu'on voit dans les PR, bon bah non, on drop cette classe. Après, bon, ok, on la remet, mais on corrige avec des propriétés. Ouais, bref. Ah, ok, on va utiliser des prepare statements pour éviter les SQL injections. Plein de choses comme ça. JMS Sync, je crois que le socket server. Pas trop ce que ça fait le socket server, c'est genre
je sais pas. Fait,
le socket server. Mais bon,
par contre,
ça travaille pas bien.
Par contre, tu disais que le remplacement, alors c'est un drop pin remplacement pour Log4j1, effectivement, dans le sens où c'est bien les mêmes noms de package, etc. Donc là, c'est complètement transparent. Mais par contre, faut bien remplacer le binaire, la librairie, et elle a des coordonnées différentes dans Maven Central, sous ch.qos.reload4j. C'est là où sont, enfin ch.qos, c'est le domaine de Checky, et c'est là où il a toutes ses librairies. Donc ça veut dire que dans votre système de build, Maven, Gradle ou autre, faut bien faire attention à exclure les jouer sur la relocation, enfin exclure la version de Log4j 1 que vous aviez partout où elle était récupérée et remplacée par Reload4j à la place. Donc faites bien attention de surtout alors mettez pas les deux dans le classpass parce que alors là ça a pu marcher du tout. Enfin surtout vous savez pas savoir laquelle des deux va être utilisée, c'est encore pire.
Oui, ça va marcher mais voilà, c'est ça exactement.
Voilà. Et donc et utiliser surtout des règles pour vérifier la non présence de des binaires Log4j officiels dans le vos packages.
Donc au final, ça a été quoi l'impact?
Alors les exploitations, bonne question.
Ben au vu de l'Armageddon potentiel, parce que c'était pas une faille théorique du genre Heartbleed ou ouais, qui était un peu compliqué à aller toucher parce qu'il fallait trouver l'espace mémoire où il y avait la clé. Blablabla. Donc c'était quand même sérieusement beaucoup plus exploitable. Mais il se trouve que donc il y a eu beaucoup de scans et de tentatives d'exploitation. Ça on il y en a eu très tôt. Alors, il y en a eu, donc on a vu les trucs rigolos, là, Apple, etc., etc., Tesla, je crois, enfin, il y en a eu un certain nombre là.
Tous, ouais.
Mais assez vite, ça a été patché au niveau des as a service. Et puis, les autres exploitations, ben, il n'y en a pas eu tant que ça. Et la théorie, moi, que j'ai entendue, c'est que, en fait, on a beaucoup parlé d'utiliser les HTTP headers pour aller faire des choses, mais ça, c'était pas si exploitable que ça par défaut par beaucoup d'applications, enfin dans beaucoup d'applications Java. Et en gros, le script qui dit s'il s'arrête à là, ça va pas aller bien loin. Donc, pour aller faire des exploitations, faut aller comprendre la stack de l'autre côté, faut aller réfléchir un peu, alors qu'est-ce qui pourrait loguer, etc. Et donc, c'était un peu du custom en fait par logiciel et du coup c'était pas si exploitable. Après il y en a eu quand même hein, VMware vSphere, VMware Horizon, les gens qui utilisent le Ubiquiti, les petits les petits routeurs. Alors, je sais pas si c'est le routeur ou le serveur derrière, derrière le routeur, mais bon, il y avait de l'exploitation. SolarWind, parce que bon, c'est pas leur année, eux. Donc, pareil, il y a eu des annonces et des risques sur des risques d'exploitation active dessus. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais au final, vu l'impact potentiel, c'est pas l'Armageddon qu'on aurait pu, qu'on a pu voir. Par contre, il y aura sûrement une longue queue de choses. Donc, c'est dans tous les exploits, les toolkits d'exploitation divers et variés, en tout cas dans cette version de base. Donc, corrigez évidemment vos serveurs. Hein, c'est pas, on dit pas que c'est pas exploitable. Ce qu'on dit, c'est que bon, il y a, en tout cas, on n'a pas vu d'exploitation explicite et de tout qui sont tombés. Par contre, on en entendra peut-être parler. C'était qui? C'était Equifax qui utilisait Struts 1. Je sais pas combien, qui était plus supporté et qui se sont fait attaquer et voler leur base utilisateur. Bon, ben, je pense qu'on en entendra quelques-unes dans le futur en 2022 ou 2023.
Et clairement, le risque, effectivement, même s'il est un peu limité sur l'exploiter au sens de l'utiliser pour modifier le logiciel, pour vraiment faire des actions malveillantes dans le système et dans l'application, parce que, bah, comme tu le dis, c'est compliqué, faut comprendre comment l'appli fonctionne, ce qu'il y a derrière, enfin, il y a plein de vecteurs, ça reste quand même quelque chose d'exploitable pour essayer de voler de la donnée, voler de l'info, voler des secrets, ce genre de choses. Et donc là, à ce niveau-là, bon, bah, voilà, il y a quand même intérêt dans tous les cas à se protéger. Mais pareil, c'est pas évident, parce qu'il faut savoir exactement où sont les secrets, enfin, il y a plein de choses, mais bon, vaut mieux de toute façon, dans tous les cas, vérifier, aussi vite et fixer aussi vite possible les impacts.
Ouais. Je crois qu'il y a une attaque iranienne pas très discrète autour de ça, mais en fait, c'était vraiment des ruées vers l'or, pour aller avoir un point de présence. Parce que ce qui se passe, c'est que bon, on peut exécuter ce qu'on veut sur une machine, donc hop, ça nous fait un point de présence dans un réseau. On l'a fait, on sait pas trop ce qu'on va en faire, mais on l'a fait, on met notre point de présence. Donc c'est les Advanced Persistent Threat, comme on dit dans en anglais. Et puis on attend, et puis on décidera comment exploiter. Et donc, c'est un peu compliqué du coup, c'est est-ce que j'ai été exploité? Parce que les logs, il faudrait qu'il y ait des logs avant, parce que les logs, quand il y a l'interpolation, vous les voyez pas, en fait, ils sont pas logués. Donc bon, il y a une petite difficulté là-dessus. Et est-ce que du coup, il y a un point de présence qui est arrivé? Est-ce que j'ai une infrastructure vraiment immuable et que je peux faire un reset, reboot du bouton et que ça va bien se passer? Voilà, donc il y a plein de questions assez subtiles. Bon, ben, c'est le moment où t'as pas envie d'être RSSI, mais voilà.
C'est ça. Donc, quel process à suivre? Donc maintenant, on est en train de
juste avant, je voulais raconter
Ouais.
Une petite anecdote. Donc toi, je sais pas si t'as travaillé le vendredi soir pour essayer de corriger des trucs, etc. Mais donc moi, il y avait la réalisation que, oula, c'est un peu chaud. Et donc des gens disent, bon, bah, on prend la décision, tu vois, d'arrêter tel service ou pas. Et là, tu dis, oh, attends, on va travailler. Donc, ce qui est cool chez un éditeur, donc effectivement, il y a les process. Donc, il y a tout le monde autour de la table virtuelle, évidemment, ces jours-ci. Des gens qui sont des SRI ou des Ops, des gens de prod sécurité pour, si on trouve un contournement de protection, de le valider, que tout le monde soit d'accord. Des gens de l'ingénierie et des gens du métier qui prennent le risque financier derrière. Voilà. Et donc, il y a vraiment un regroupement, tout le monde travaille ensemble à ce moment-là et donc bon, la fatigue s'accumule, donc ça c'est toujours un peu compliqué.
Ouais.
Mais ce qui est rigolo, c'est quand les gens ils connaissent pas forcément trop, donc après on peut être trop expert et rater des morceaux, mais du coup il y a l'approche du genre, bah non, mais tant que je suis pas certain, je coupe. Et donc à un moment, moi il y avait... Donc on se met d'accord sur un protocole, ok, on redémarre tel morceau, un morceau assez spécifique, on vérifie qu'il est effectivement exploitable, ensuite on le patch, on vérifie qu'il est plus exploitable, et si ça passe, tout le monde dit ok, et hop, on déploie de manière plus large. Ok, on fait ça. Et là tu dis, bah oui, mais exploitable, c'est pas facile. Donc j'ai dû, avec quelqu'un d'autre, on était en train de trouver, bon bah alors comment il s'exploite notre truc là. Donc alors on a fini par trouver un chemin d'exploitation. Alors, ça demandait du debug, parce qu'effectivement, beaucoup de ces trucs qui sont un peu trop sensibles et qui viennent de l'utilisateur, ils sont pas, en tout cas, en info, mais donc on a descendu le niveau de log à debug. on a redéployé. On a notre équipe de ProdSec nous avait donné un moyen d'aller faire le challenge avec un LDAP qui pouvait faire la compromission. Ouais. Donc on lance le truc, on vérifie qu'effectivement on se fait pawner dans ce cas-là, et hop, on l'enlève, on repatch et on vérifie. Mais du coup, des fois, c'est un peu genre, mais comment tu veux que je prouve ça? En gros, il faut que je devienne l'attaquant pour prouver que le truc est... Parce que c'était pas si simple que ça de montrer l'exploitation, surtout dans les cas non HTTP, header, etc.
C'est ça.
Voilà. Donc ça, ouais, c'était pour la petite histoire.
Mais c'était compliqué effectivement d'isoler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a une différence entre, et c'est là où effectivement bon, les outils nous aident, on en reparlera, mais pas que, parce que voilà, c'est facile, autant c'est quasiment facile de voir si on utilise Log4j et pas que, hein, parce que des fois on le disait tout à l'heure, le shading, etc. Mais autant de savoir si vraiment on peut être impacté par la faille de sécu, bah ouais, comme tu le dis, il y a tellement de possibilités de chemin que c'est pas simple, hein. Clairement, pour aller chercher, si on veut commencer à aller chercher toutes les lignes de log dans le code pour se voir s'il y a des moments où l'information peut venir de l'extérieur et que donc, bon, c'est très très compliqué à mettre en place, ouais. Et ça prend un temps fou. Effectivement, nos équipes de sécu, pareil, nous, elles ont bossé pour s'assurer de tout ça côté Jenkins. Bon, il y en avait pas, heureusement, au final. Côté nos produits, il y en avait très peu, pareil, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps à essayer de se mettre dans la peau du hacker et de trouver, parce qu'effectivement, c'est ce qui est rarement annoncé, enfin, généralement, c'est qu'on vous donne pas la recette pour hacker le système quand on annonce la faille de sécurité, c'est pas le but. Donc, c'est ça qui est justement compliqué.
Ouais. Il y en a qui ont circulé assez librement, vite, et après, elles ont été chantées par GitHub qui a fait non, mais c'est bon, quoi.
C'est ça.
Voilà. Donc à un moment on dit ah tiens on retrouve plus le lien, c'est pas grave. Un truc que moi j'ai appris personnellement, c'est que on peut très bien dire bah c'est l'équipe de sécurité qui va gérer, mais en vrai c'est toujours compliqué des mises à jour comme ça micro ou mineures. Donc en vrai il y a vraiment besoin de l'équipe de dev pour faire l'assessement de l'impact en fait, parce que comment est-ce que votre équipe de sécurité qui est assez généraliste, ça se trouve, elle ne fait pas que du Java, elle soit capable de vous dire, bah, lui, il n'utilise pas le GNDL. Voilà, ça demande quand même une connaissance assez avancée. Et c'est là où il faut vraiment un travail en commun. On parle beaucoup un peu en buzzword de DevSecOps, là, mais voilà, c'est là où il y a un travail en commun à faire qui est intéressant. Donc, quand on voit une CVE, c'est bien, l'équipe de sécurité, c'est son job de voir la véracité de la CVE, de la valider, de dire, tiens, là, on est potentiellement compromis. Donc, quel logiciel on a? Quelles sont ses dépendances? Donc là, il y a beaucoup de travail dans beaucoup de sociétés. Parce que la supply chain et savoir ce qu'on utilise vraiment, ben, c'est pas encore super, super systématique. Et puis, comprendre ces vecteurs d'attaque, ben, c'est compliqué. Puis, on mature même en termes d'industrie, voilà, au fur et à mesure qu'on voit l'exploitation. Alors après, si vous êtes super fort et vous savez redéployer en 45 secondes vos logiciels, ben vous posez moins de questions. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, il n'y a pas des impacts et du coup, il y a ce travail à faire. Ouais.
Et puis c'est surtout que ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout ça c'est fait sans anticipation, parce que bah quand on a découvert tout ça le 9-10 décembre. On n'avait pas ça dans notre planning, hein. C'était pas marqué. Vous allez bosser comme des bœufs pendant 15 jours sur Log4Shell. Clairement, on avait
tous. C'est la semaine tranquille avant les vacances. Tout le monde,
exactement, c'est ça. C'est tout le monde se dit non, moi je clôt tranquillement tous mes dossiers, mes machins avant de partir en vacances. On va en profiter, on va souffler. Et quand il y a ça qui arrive juste le week-end d'avant et qui dit bah tout le monde sur le front et qu'effectivement il y a des cellules de crise dans toutes les entreprises, les éditeurs pour se dire ah bon on est impacté ou pas, il faut nous-mêmes émettre les CVI si on est si nos logiciels eux-mêmes sont impactés, parce qu'on doit aussi donc toute cette chaîne qui se met en route en très peu de temps, ça demande un effort énorme, faut bien l'avouer. C'est là où bon après obligatoirement à force d'expérience on travaille, on améliore nos process, mais c'est clairement pas quelque chose qui se fait voilà comme ça au pied levé du jour au lendemain.
Un point clé. Donc vous l'avez vu, on est parti du 10 décembre, on a abandonné au 27.
Ouais.
Log4j 1, ça a continué sur janvier, c'est bien. Donc si vous vous dites, là, on va bosser comme des dingues là, 23 heures par jour pendant 3 jours, après c'est bon, ça marche pas. Donc anticiper les rotations. Ouais. Des gens qui sont fatigués, ils font des erreurs. Donc, déjà, mettez plus de gens autour de la table, même si ça ralentit, ça fait plus de cerveau. Ouais. Et puis surtout, allez faire coucher les gens et anticiper vos rotations. C'est-à-dire que on va remettre quelqu'un de frais dedans, il va réapprendre. Mmh. Et c'est important de pas être en mode panique, mais en mode calme. On assesse, on prend la décision, collectivement, etc. Donc, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est important. Celle-là, c'était le cas vraiment classique du truc. Je crois que c'est Bruce Schneier qui disait une faille, en fait, elle devient jamais meilleure, elle devient toujours pire, en fait. On trouve toujours plus d'exploitation, évidemment.
C'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que ça, dès que c'est sous les feux de la rampe, obligatoirement, la librairie se trouve scannée et testée par tout le monde, et on trouve donc d'autres problèmes. Donc c'est aussi l'effet boule de neige. Donc c'est ça qui est important quand tu le dis. C'est vraiment un marathon quand on a ce genre de choses, surtout aussi important qui se produit. Généralement, c'est la première sur une grande série et que donc derrière, faut tenir la route, que ça soit donc côté fondation. Honnêtement, ils ont travaillé très très dur pendant les semaines là de décembre chez tous les après ce qu'on a vu et franchement ce que j'ai beaucoup apprécié c'est effectivement tous les soutiens de la communauté qu'on a pu voir partout sur les réseaux sociaux etc pour aider les gens pour les juste leur dire merci et voilà et respecter tous les efforts qui sont faits au lieu de leur jeter des tomates parce que c'est à cause de toi que je vais pourrir mon Noël j'ai trouvé ouais. Qu'il y avait quand même beaucoup d'entraide.
C'est toujours pourri, donc on a toujours c'est la ça. Réputation de c'est ça. De Java, comment s'appelait ce truc Java dans le navigateur là, Java
oui
non, c'est pas Java Frame mais comme ça
les applettes.
Japlettes, voilà.
Les chapelettes.
Et du coup, les gens ont toujours cette vieille réputation donc bref, il y a eu un peu des deux en l'occurrence mais donc, c'était bien d'avoir le
pour une fois qu'on se fait bâcher, ça fait voilà. Mais non, si il faut voilà. Je trouve que côté communauté, il y a quand même beaucoup d'efforts pour soutenir. Donc voilà.
Ouais. Donc, je vous recommande de mettre dans votre système de gestion de bug un petit truc qui dit on va faire une revue de ce qu'on log et regarder si on log des choses qui viennent de l'extérieur et c'est quoi l'impact potentiel. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Comment est-ce qu'on le log? Voilà. Donc ça peut toujours valoir le coup. Parce qu'il y a, ah oui, il y a un vecteur dont on n'a pas parlé, mais je fais un truc, je le log, super, c'est safe, je suis en go, de toute façon je n'exploite pas. Le log, je le ship, je l'envoie dans Elasticsearch, qui je crois qu'au final ils n'étaient pas exploitables, mais non. Hop, c'est relu en chaîne de caractères, c'est peut-être logué, c'est peut-être réexécuté, donc en fait l'impact maintenant qu'on a plein de systèmes qui se passent la donnée là, c'est assez fascinant.
C'est ça.
C'est fascinant. Voilà, donc d'essayer du coup de définir le risque par ce qui vient, de regarder un peu votre système en entier, pas que juste un composant, votre premier serveur, des choses comme ça. Et évidemment, si vous êtes capable d'appliquer les patchs de sécurité rapidement parce que votre chaîne de déploiement a été travaillée, c'est top. Vous êtes dans le panier des gens qui travaillent bien, donc profitez de cette flexibilité que vous avez là-dessus. Puis après, quand on est un éditeur, on déploie, on livre chez les clients, on leur explique, on définit des timeframes. Après, on ne peut pas livrer 5 versions en 3 heures, donc il y a aussi un équilibre à trouver là-dessus.
Et on répète, la communication reste le point clé. Communication interne ou externe, c'est le truc le plus important parce que, enfin, que ça soit des clients ou des utilisateurs finaux, ils vont pas comprendre pourquoi telle application est arrêtée ou telle application, parce que tout d'un coup tous les délais de tout explosent partout parce que on met toutes nos ressources sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment important que la communication soit bien faite. Et on en revient.
Le gouvernement canadien qui avait éteint tous les services.
Oui, je crois qu'il y en a certains. Ils ont pas cherché à. On éteint avant qu'on comprenne et qu'on rouvre. Mais ce qui est une stratégie qui se tient. Ouais. Et après, on en revient surtout sur la bull chain. Faites énormément attention à ce que vous consommez. Toujours limiter au minimum vos dépendances. On sait que c'est bête, mais et là on parle aujourd'hui de Java, mais on en parlera un petit peu après de NPM, etc. Mais c'est tellement simple aujourd'hui de tirer la terre entière dans vos applications et de retrouver des librairies qui ont des impacts, enfin, qui ont des trous de sécu facilement, parce que les systèmes de build, ils sont tellement géniaux qu'effectivement, ils téléchargent la terre entière. Donc, faites attention à ce que vous shippez, ce que vous utilisez vous-même, essayez de limiter toujours au maximum et scanner. Alors, bien sûr, on sait que les scanners sont loin d'être parfait et performant et de tout catcher. Des fois, il y a beaucoup de faux positifs, etc. Mais il faut une stratégie de sécurité. C'est clairement nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être éditeur, d'être une grosse boîte comme Red Hat, Microsoft ou autre pour se dire « Ah, je vais enfin m'intéresser à la sécurité ». C'est vraiment le point que tout le monde doit suivre, avoir une démarche sécurité dans son entreprise.
Après, c'est un des points intéressants d'un éditeur, plutôt que dire je vais tout gérer mon open source tout seul, etc. C'est que ils vont vous accompagner là-dessus et ils vont pas faire tout puisqu'il y a des morceaux qui restent à vous, mais il y a quand même des blocs entiers sur lesquels les éditeurs vont vous accompagner plutôt que vous à vous demander si vous utilisez peut-être Log4j ou pas dans votre truc. Puis ça, Log4j c'en est une, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous avez un truc qui liste toutes vos dépendances Java et qui du coup regarde s'il y a des CVE qui s'affichent un jour ou un autre? Voilà, c'est une question intéressante. Ok, et puis le shading, on en a parlé. Donc là, c'est le truc où on a pris Log4j, on l'a mis dans un autre package et puis on l'a oublié. Et donc là, le bug, il est toujours là, mais sauf que le scanner de sécurité ne va pas le voir et que le gars qui avait fait ça, il est parti. Et que voilà.
C'est ça.
Bon courage.
Toujours
pour moi, avec Maven Shading, il y a le nom du truc source, etc. Donc, il y a moyen de faire un peu de grep, des choses comme ça, mais ça reste des problèmes. Donc, on a mis impact de l'industrie dans le futur, mais voilà, c'est un peu le reste. Donc, déjà, vous avez parlé de ce chercheur d'Alibaba qui avait annoncé. Donc, Alibaba, ils sont censés, parce qu'ils ont un contrat avec le gouvernement chinois, donner au ministère de l'Industrie ou un truc comme ça, de dire quand ils ont trouvé une faille quelconque. Donc, ils sont obligés de l'annoncer en gros en premier à ces gens-là. Après, on se demande, est-ce que c'est comme ça le ministère du Travail peut se corriger, etc. ou est-ce que c'est que comme ça le ministère des Armées Offensives de la République Populaire de Chine peut faire des choses? Donc, c'est la bonne question. En tout cas, comme ils n'ont pas fait ça, ils se sont fait taper sur les doigts.
Ils se sont fait taper dessus.
Supprimés sur 6 mois ou je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, ils ont fait amende honorable, etc. Mais on voit la tension. Bon, nous, on est contents qu'ils aient pas attendu au final, mais voilà, on voit les tensions dans certains pays là-dessus, sur la libre circulation de ces infos. Et du coup, il y a eu un autre débat qui était, on en a parlé un peu dans les éditions news, mais l'open source, il n'y a pas assez d'argent, c'est des volontaires, pas étonnant qu'il y ait des failles de sécurité. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah, c'est le fameux débat. Donc là, on parle de la Fondation Apache. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre, parce que souvent, on parle, on avait parlé dans l'épisode de news précédent de ce développeur de NPM qui maintient des petites librairies Colors, etc., qui avait modifié son code, modifié son code pour montrer son ras-le-bol, que voilà, justement, tout le monde, toute la communauté vient vers lui pour fixer, pour améliorer le truc et sans jamais avoir rien en retour. Là, on parle d'une fondation. Donc, les fondations sont quand même normalement mieux organisées. Ça n'empêche pas que, les bugs de sécu, ils existent. Ce qu'on peut espérer, effectivement, et là, on l'a vu avec la fondation, c'est que l'organisation, les moyens ont été mis en place, etc., pour gérer, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Clairement, le bug, il est là, il a été là. Donc, de toute façon, le fixe, ça prend un temps fou dans toutes les communautés. L'open source, ça reste après... L'avantage, c'est que justement, tout le monde peut accéder, on peut le forker, on l'a bien vu, donc avec Reload4j, c'est le gros avantage. Là où Shecky, qui avait écrit Log4j1, a dit, moi, ça m'ennuie que vous décidiez de plus le maintenir. Et non, honnêtement, moi, avec ma casquette Apache, clairement, je maintiens que c'était la bonne solution d'Apache de dire, non, on va pas le fixer, parce que on parle d'un logiciel qui a été arrêté d'être maintenu depuis 7 ans. Il y a un moment, faut aussi que les gens, les utilisateurs.
Et rappelle-toi le Windows XP Service Pack N+1 parce qu'il y avait un truc vraiment trop.
Voilà. Mais bon, donc qu'ils se tiennent à leurs règles me va très bien, mais l'avantage, c'est comme c'est open source, effectivement, ils ont fait aucune difficulté pour que Shaky reprenne le code, et lui en avait l'envie, la motivation de fixer, ouais. Et donc la preuve, il a redonné une seconde vie un peu à Slug4j1 en fixant ses issues de sécurité, plus d'autres, donc c'est quand même ça que finalement que la communauté permet. Après, il y a eu beaucoup de choses, je crois que c'est le gouvernement américain qui a dit tout de suite « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi !» Donc, on va faire un gros meeting où on va inviter Oracle, Microsoft et donc des gros contributeurs de l'open source. Ok.
Au final, ça s'est pas mal ouvert, en l'occurrence. Hein.
Ça s'est bien ouvert, mais... c'est ça. Au début, il n'y avait aucune fondation, il n'y avait rien. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour les aider à mieux gérer la sécurité ? Honnêtement, je pense que c'est déjà quand même... Enfin, les gens en prennent conscience. Quand on voit, enfin, ce qu'on expliquait au tout début, l'introduction du bug de sécu en tant que tel, franchement, je vois pas qui peut blâmer les développeurs. Enfin, une fonctionnalité qui arrive, qui leur est proposée comme ça, tiens, j'ai ce besoin d'aller chercher une info dans un machin... Après, effectivement, on peut regretter le fait que la fonctionnalité était là par défaut et non pas désactivée par défaut, etc., etc., parce qu'ils n'avaient pas envisagé les risques de sécu. Mais enfin, je pense que personne pourrait dire « Non, non, moi, j'aurais dit obligatoirement « C'est de la merde, je le fais pas, je le jette. » Non, c'est là où est toute l'équipe de l'open source, c'est compliqué. Les gens font attention autant que possible à la qualité. Maintenant, voilà, rien n'est infaillible.
Ouais. Après, il y a une vraie question. Est-ce que l'argent pourra aider ? Et en fait, il y avait des débats intéressants de gens qui sont du coup du côté des mainteneurs et ça va pas prévenir. Enfin, dans le cas d'Apache, ça aurait pas prévenu ce truc-là, ça aurait pas accéléré les fixes, je pense, parce que ça a été fait quand même super rapidement. Par contre, est-ce que ça aurait pu être anticipé parce que quelqu'un l'aurait trouvé avant avec un peu de funding, c'est possible. C'est et ça. Funding, c'est donc un peu du développeur qui est le mainteneur principal, mais aussi on va faire une recherche de sécurité dessus, on va la payer, puis on va t'amener l'info, voilà. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui consomment de l'open source. Enfin, il y a toutes les sociétés qui consomment de l'open source. Combien remet de l'argent dans le circuit pour essayer d'améliorer ? C'est peu aujourd'hui. Hein. Et après, on voit, nous, on avait fait l'expérience avec Flutter. Là, il y a pas très long dessus, mais pour les cascodeurs. Mais on voit que ce genre de choses, c'est pas du 300 000 dollars par an. Enfin, si, Gipster, c'est plutôt pas mal. Ils ont réussi quand même à animer ça plutôt pas mal, mais bon, c'est un des rares que j'entends avec succès dans la sphère dans laquelle je suis.
Ça.
Donc ça marche, mais c'est pas si facile que ça. Ça demande aussi de marketer, donc ça demande en gros, limite un community manager pour aller récupérer l'argent. Donc,
c'est ça, c'est qu'il faut récupérer les fonds. Donc quand c'est une fondation, effectivement, c'est ce que font la fondation Apache, de récupérer des fonds qui sont distribués pour donner des moyens au projet. Mais c'est évident que c'est jamais suffisant, comme tu le disais. Il y a besoin surtout de personnes et de compétences. Tous les security checks sont super utiles et c'est vrai qu'il y en a pas assez d'avoir ces genres de bug bounty. De security bug bounty comme il peut y en avoir. Nous, on les organise. J'imagine que vous en avez chez Red Hat, on en a chez CloudBees, où on a des bug bounty qui sont faits sur nos produits ou sur la communauté open source, Jenkins, etc., pour essayer d'identifier les vulnérabilités qui nous sont remontées derrière, qu'on fixe, etc. Mais ça demande déjà de l'expertise en sécurité, ce que tout le monde n'a pas. C'est évident que les développeurs des projets open source, mais comme les développeurs dans la vraie vie, ils sont pas tous au courant, enfin tous experts en sécurité. Personnellement, je me considère pas du tout expert en sécurité, pour être clair, sur le sujet. Donc voilà, c'est aussi ça, apporter de l'argent en tant que tel. C'est pas vraiment ce qui va révolutionner, ça va aider à avoir plus de moyens, peut-être à embaucher des security engineers pour faire ces gestions de ces découvertes de vulnérabilités, etc. Mais l'ensemble finalement fonctionne plutôt bien puisqu'on a bien vu l'ingénieur de sécurité a remonté ça à la fondation Apache proprement via le channel de sécurité. Ils ont mis 15 jours à étudier, sortir le fixe, etc. Ça se fait, voilà, au final, tout se fait. C'est juste que, bah oui, là, obligatoirement, l'impact était énorme parce que sur une librairie utilisée comme Log4j2, bah oui, ça avait un impact énorme. Mais au final, ça s'est fait un peu dans la douleur, mais c'est passé. Voilà.
Et donc, Colors and Faker.js, ce mainteneur, c'est intéressant parce que je crois qu'on avait, du coup, on l'avait un peu skippé là, enfin, la Moinus. Ouais. Donc, c'est un mainteneur de ces deux librairies, là.
Ouais.
Et il a essayé de faire de l'argent autour et puis ça n'a pas marché. On revient après là-dessus. Donc, il était de plus en plus déçu, en fait, du système, hein, en gros. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une nouvelle version en micro et puis il a rajouté une boucle infinie, en fait.
C'est ça.
Puis après, les gens disaient, ah ouais, il y a ce truc, il hein, y a un problème. Ah oui, ah, désolé, là, je peux pas trop là, ce week-end. Là. Tiens, voilà, Pierre. Ah ouais, il y a sûrement d'autres mainteneurs, ils vont pouvoir faire la release. Là, moi, je peux pas. Non. Donc, en gros, en protestation, il a mis un truc qui fait que la fonctionnalité était défective et bloquait les serveurs, enfin, faisait tomber les serveurs qui l'utilisaient. Que bah Colors, enfin que dans NPM les dépendances des versions, on a tendance à prendre la latest parce qu'on n'a pas défini les trucs, donc hop, tout de suite ça tombe d'un coup. Celui qui a marché plus a quand même 20 millions de téléchargements par semaine, donc voilà, bah, il y a quelques gens impactés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, quand même, c'est quand même son logiciel open source qu'il a proposé. Il s'est fait bloquer son compte GitHub. Et NPM a remis la version d'avant. Donc en fait, ils n'étaient pas vraiment en contrôle. Enfin, ils ont fait ce qui était peut-être bien. Alors bloqué, je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait ce qui était bien pour la communauté NPM. Mais il y a une question humaine. Enfin, voilà, c'est qui, ils ont un peu volé le boulot. Enfin, c'est un peu curieux, quoi. C'est un peu curieux. Donc évidemment, j'imagine qu'il est encore plus déçu du système. C'est
encore plus énervé. Et
avant, du coup, en 2021, il s'est dit, ah, bah, moi, j'ai Faker.js. En fait, c'est un truc qui génère des données aléatoires pour aider à, pour tester, en fait. Et donc, il s'est dit, bah, ça a l'air populaire. Les gens aiment bien. Bon, je fais zéro argent dessus. Je vais peut-être faire un Faker.js as a service. Comme ça, t'as pas à installer ce serveur qui peut générer des versions, donc il développe le truc, il voit des gens qui testent d'une société, et puis ok, puis après les mecs reviennent pas, et puis là il voit la société en gros qui fournit un service équivalent, quoi. Donc là il dit, ah, attends, ils ont regardé ce que j'ai fait, ils ont piqué l'idée, donc il propose au CEO de cette boîte, ben t'as qu'à racheter mes projets, moi en consulting, la marque, et puis bon, voilà, silence, quoi. Donc voilà, et le système est un peu sans foi ni loi aussi. Alors, la licence le permet, hein, mais bon, au final, ça reste des humains derrière, donc il y a des choix que tu fais qui ont des impacts.
C'est ça.
Voilà. Sinon, on en avait parlé, mais il y a les réflexions du Diabolical Developer, donc Martin, sur Log4Shell, là, qui était dans le calendrier de l'avant. Donc, comme on avait dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint, d'accord? Après 5 ou 6 jours à fond, vous êtes mort. Donc, faites des rotations, faites des gens qui se reposent, des gens qui reviennent. Communiquer. Alors, toi, c'est toi qui l'as dit, communiquer en termes humains, en fait. C'est super important de clarifier vos, alors on va vous donner un point de vue dans 2 jours. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Communiquer à vos utilisateurs, qu'ils soient clients ou pas. Sur le réseau, quand on communique de A à B, ben rajouter de l'encryption, autorisation, authentification, vérifier, enfin nettoyer vos données. On en a parlé. Alors en l'occurrence, dans cette faille, c'est pas sûr que ça aurait réussi. Si on a vu des morceaux avec le JDBC Appenders, bon, ça aurait été mieux dès le début celui-là. Il était bien facile, quoi. Voilà. Réfléchissez à votre limite de denial of service. Donc, ben, quand je suis en général à la gueule, qu'est-ce que je fais? Je continue à absorber, je rejette. Voilà. Donc, c'est des stratégies quand on développe des serveurs. Hein, c'est toujours important. Bon, maintenant qu'on est un peu dans des approches microservices, on peut mettre des limiteurs des rate limiteurs, comme on dit, devant. Hein, que ça soit du HA proxy, limitador, etc. Voilà, puis la sécurisation de la chaîne de logistique, la supply chain, ça va devenir et la gouvernance de qu'est-ce que j'utilise comme composant, voilà, ça va être de plus en plus important.
Critique.
Voilà. Bon, pas mal, hein, pour une petite interview.
petite interview qui finalement aura duré encore une
Et je trouve que ça montre quand même la maturité de l'industrie Java par rapport à d'autres, qu'il y a une réaction globale de l'industrie très rapide, que au final, moi je suis plutôt, en regardant en fait, évidemment quand on a vu la 10 sur 10 après derrière toutes les mineurs, mais bon, quand on regarde les impacts de celles qui ont été trouvées derrière, déjà il y en a pas eu tant que ça. Non. On aurait pu y avoir comme Zoom là avec une par semaine une grosse faille de d'exploit, mais c'était pas le cas. Et puis bon, après la surface c'était pas la même, et puis ça descendait en facilité d'exploitation, donc ça montre aussi que bah c'est pas non plus un truc troué totalement mal fait, etc. Bon bah des erreurs ça arrive, ça a été corrigé plutôt vite, plutôt bien, dans une t'en parlais un peu, dans une ambiance bien bienveillante, à part les gens qui étaient un peu trop extérieurs à Java et qui étaient pas contents pour leur week-end. Donc moi je trouve que c'est assez mature au final, hein, donc c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle. Après les utilisateurs de Log4j, je sais pas la maturité que tout le monde a, c'est un peu la vraie question en fait. Et on le verra sur la fameuse
long tail. Voilà, c'est ça. On va voir sur l'évolution des téléchargements, l'évolution de l'impact que ça a au quotidien dans les applications. Et donc voilà. Donc on espère que cet épisode surtout vous aura permis de vous rendre compte et d'avoir plus de détails sur l'incident au cas où vous l'auriez loupé. J'espère quand même pas. Si vraiment vous pensez qu'il y a du Log4j quelque part, ou si vous avez un doute, eh ben vérifiez si vous avez du Log4j, quelle version utiliser, pourquoi, etc. C'est quand même critique. Et on parle aujourd'hui de Log4j parce qu'effectivement ça a été énorme comme faille de sécu, mais vérifiez voilà la qualité de vos composants utilisés. Donc après vous avez des scanners, vous en avez des tonnes qui existent de solutions. Je vais pas les citer, pas faire de publicité déséquilibrée pour les uns pour les autres, mais il y en a plein. Voilà, pour être au moins au courant des composants qui ont des CVI ouvertes et ensuite analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous. Ça demande du boulot, mais c'est critique pour vous et pour votre communauté ou vos clients en fonction. Voilà, donc
ça permet de gérer ça de manière plus sereine.
C'est ça.
D'anticiper, de les voir. Parce que courir comme des poulets sans tête, voilà, à chaque fois qu'il y a ça, et de pas apprendre de cette erreur-là, et de construire des procédures, stresse tout le monde, ça fatigue, les gens sont moins motivés, voilà, ils s'en vont, on sait tous que des bons développeurs, il n'y en a pas tant que ça sur la planète. Donc,
Et mettez à jour vos dépendances, c'est super truc, critique.
C'est pas que le projet est fini, et du coup, on a plus besoin de mettre à jour.
C'est un produit, sa vie, tout le temps, sa vie, même s'il est stable, même, voilà, on le voit encore avec Log4j1 qui est très utilisé et que, donc, effectivement, on veut plus maintenir, mais pourtant, il est stable, il fait le job, donc les gens n'ont pas envie de remplacer, mais voilà, le risque, c'est ça, c'est que dessus, il y avait des tonnes de CVs ouvertes. Donc voilà, maintenez à jour vos logiciels, vos développements, et essayez d'en inclure un minimum, obligatoirement, ça vous évitera les risques et la maintenance. Mais voilà, c'est vraiment les axes d'amélioration qui sont toujours critiques et qu'on répète pas assez. Et on sait que c'est des choses qui se mettent dans le backlog et qu'on se dit toujours, oh, je le ferai plus tard, la montée de version du framework XYZ, etc., parce que ça n'a pas de valeur métier. C'est évident que ça n'a pas obligatoirement une valeur métier de se tenir à jour et de mettre à jour, même si aujourd'hui, ça, vous pouvez être aidé avec une bonne CI, une bonne CD, avec des bots, voilà, des PandaBot, etc., pour avoir automatiquement les annonces des mises à jour. Ça prend du temps. Mais ça reste critique à long terme si vous voulez que votre solution elle reste pérenne et sécurisée, voilà, parce que sinon ça va, vous allez le payer très très cher, parce que là faut voir que les gens qui effectivement se sont tapés ça sur du Log4j1, clairement c'est pas le seul problème de sécurité qu'ils doivent avoir, hein, s'ils tournent sur du Log4j1, donc obligatoirement voilà, vous mettez en risque votre application et utilisateur ou client.
Ouais. Après, il y a des gens qui ont dû le voir en autre type de problème de sécurité, hein, mais des rangements sans logiciel. Comment on redémarre un système, un SI, en disant comment on a été compromis, comment on redémarre, qu'est-ce qui est clean.
C'est ça.
Avec des boîtes qui mènent, alors qui sont peut-être dans le noir pendant au moins une semaine et qui redémarrent. Alors 48 heures, c'est sûr, parce que c'est juste trouver comment on s'est fait pôner. Et puis ensuite, une semaine, c'est les systèmes hyper critiques. Et puis, des mois après, c'est les systèmes moins critiques. Mais ça prend un temps de malade. Donc,
c'est ça. avec tout ce qui va comme ça, comme effet de bord sur l'activité, sur tout ce qui est autour. Donc, vraiment critique.
Il y a une valeur métier, en fait. Enfin,
c'est ça que je voulais dire. Valeur métier. Au final, la valeur métier, elle est dans la maintenance du système et dans sa disponibilité à long terme. Donc, prenez-en soin. C'est votre logiciel. C'est important.
Voilà. Bon, on va vous laisser sur ce. Bon courage. Allez patcher.
Merci beaucoup. Bon patch à tous. Allez. Ouais. Bonne journée. Ciao.
Ah oui. Et puis, on peut dire, Devox, je pense qu'il y aura au moins une ou quelques conférences autour de ça, je crois.
Il y en a plusieurs. Il y en aura une sur Log4j en particulier, Log4Shell en particulier. Et il y aura d'autres sessions sur tous les aspects de sécurité qu'on a cités aujourd'hui. Donc,
venez. On a fait notre recherche, en pas si longtemps, mais. Il y a des gens qui étaient à l'intérieur et qui peuvent en parler.
Qui vont en parler. On aura des membres de la Fondation Apache. Tout à fait.
Yes. Ciao. Allez. Tout le monde.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com. podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr